Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Hello les amis, le soleil brille à peu près partout ce matin et dans les studios de Sud Radio également et en Charente avec un S, hein. Les Charentes, Charente, Charente-Maritime, où on va aller se promener en deuxième partie d'émission tout à l'heure entre 11h et midi et vous découvrirez les merveilles de ces deux départements. On parlera même des francopholies qui démarrent là, hein, qui démarrent cette semaine, Marine.
Oui, tout à fait.
Bonjour Marine Van Tournout.
Bonjour Vincent, bonjour.
Comment ça
à tous.
Va
ben, ça va très bien ce matin.
Vous êtes francophone puisque vous êtes belge, donc francopholie. Un peu de folie dans votre vie, quoi.
Mais oui, on a aussi des francopholies en Belgique, donc ça
c'est
me parle.
C'est pas possible. On m'avait caché ça. Et ça, ça sera pour la deuxième heure. Pour l'instant, le débat qui va nous occuper, vous pouvez appeler évidemment si le thème vous intéresse, le 0826 300 300, pour nous parler d'un sujet, moi, qui m'intéresse au moment des vacances, c'est le bateau. Au fond, passer ses vacances sur un bateau, est-ce que ce sont des vacances de millionnaires ou de milliardaires, voire même de multimilliardaires, hein. Est-ce que c'est une image un petit peu éculée, c'est vrai? Est-ce que la plaisance, est-ce que la croisière se sont démocratisées? On va en parler avec nos invités dans un instant. Mais pour l'instant, comme toujours, on a été un peu fouiné dans la presse quotidienne régionale.
Sud Radio, les routes de l'été, la revue de presse des régions.
La revue de presse des régions, c'est la revue de presse de Marine Van Tournout, ce regard un petit peu extérieur, francophile, francophone, mais un peu le regard d'une Belge sur nos régions françaises. Alors à la une ce matin, évidemment, ai-je envie de dire, on a dîné avec lui, on a petit déjeuner avec lui, on a vécu avec Bernard Tapie.
Et oui, à la fin, c'est Tapie qui gagne pour le Dauphiné libéré. Bernard Tapie relaxé avec un point d'exclamation pour la Provence. Le journal dont il est l'actionnaire principal a recueilli sa première réaction hier. Je cite, « Mon concert vient d'en prendre un sale coup dans la gueule ». Du côté de la Dépêche du Midi, c'est un coup de théâtre. Les juges n'ont pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé 5 ans de prison ferme dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. Le quotidien revient sur les mille et une vies de Bernard Tapie. 25 ans de procédure qui finissent bien pour l'ancien président de l'OM. Mais attention, prévient le Parisien, le parquet pourrait faire appel du jugement et d'autres procédures sont en cours. Affaire à suivre donc.
Oh, certainement hein, qu'on va la suivre sur Sud Radio et partout dans les médias. Marine, l'autre information d'hier, alors à titre personnel, je suis assez content. Hein. C'est évidemment la grogne du secteur des transports à propos de l'écotaxe.
Oui, c'est-à-dire dans Ouest-France, les routiers et le secteur aérien sont mis à contribution par le gouvernement pour financer des infrastructures et je cite, répondre aux défis climatiques. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé hier la mise en place d'une éco-contribution sur les billets d'avion et la réduction de l'avantage fiscal sur le gazole pour les poids lourds à partir de 2020. Côté avion, cette nouvelle éco-taxe ira de 1,50€ à 18€ sur les vols au départ de la France. Pour les professionnels du transport, cette nouvelle hémorragie fiscale au nom de la lutte contre la pollution, eh ben ça ne passe pas. Les West France nous rappellent le fiasco de l'éco-taxe 5 ans plus tôt qui devait s'appliquer aux plus de 3,5 tonnes qui circulent sur les axes routiers gratuits. Mais face à la colère des bonnets rouges bretons de l'époque, le gouvernement Hérault avait fait marche arrière. Un fiasco alors de plus de 1 milliard d'euros selon le quotidien.
Alors, je disais à titre personnel, moi ça fait longtemps que j'attends cette taxe. C'est souvent les gens qui ont de quoi se payer des voyages qui voyagent en avion. Hein, donc ça sera assez indolore. C'est peut-être pour les compagnies aériennes que ça pose un problème.
Et pour les transports routiers.
Et pour les transports routiers. Et je trouve très bien sur les avions en tout cas que par exemple en classe business et première, ça soit carrément surtaxé. C'est bien normal et ce sont souvent les sociétés qui payent en plus. Hein, donc un peu indolore pour nos passagers. Allez, plus léger ce matin, dans le bassin de la Loire, attention aux algues bleues.
La photo du fleuve fait la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest. Le journal rappelle qu'un chien est mort dimanche à Vouvray après avoir bu de l'eau de la Loire, vraisemblablement à cause de cyanobactéries, ces petites algues bleues. La préfecture d'Indre-et-Loire rappelle les risques lors de baignades, notamment pour les enfants. Ces micro-organismes en grande concentration peuvent synthétiser des toxines dangereuses pour l'homme et l'animal. L'ingestion d'eau contaminée peut faire apparaître des maux de ventre, nausées, vomissements, diarrhées, mais aussi des irritations en cas de contact avec la peau et les muqueuses. Dans les cas les plus graves, cela peut même engendrer des troubles sévères au niveau du foie et des nerfs. Prudence donc avant de vous baigner. Respectez bien les arrêtés de votre préfecture et la signalisation mise en place.
Oui, merci Manny. Je vous rappelle que l'actualité aussi, c'était la mort de cet ostréiculteur en Bretagne suite peut-être, hein, l'enquête est en cours, à, je dirais, à l'inhalation des gaz issus des algues vertes, de la décomposition des algues vertes. Donc on y reviendra, on en fera un débat dans notre été, enfin en tout cas un débat de première heure sur la question des algues sur notre littoral et évidemment l'agriculture qui peut être en cause parfois dans la prolifération de ces algues. Merci beaucoup Marine. Vous savez que j'aime bien fouiller dans l'actualité optimiste, joyeuse, parfois un peu décalée de notre été. Et dans la PQR ce matin, dans la presse quotidienne régionale, eh bien, on apprend l'histoire d'un serpent qui s'est égaré. On peut dire ça comme ça. Il s'égare pas, hein. C'est chez nous. C'est quand c'est chez nous qu'on dit qu'il s'égare.
C'est pas le vôtre, en tout cas.
Ce n'est pas le mien. Merci de le préciser. Et j'ai en ligne le lieutenant Johan Cognier. Bonjour, Johan.
Bonjour.
Vous êtes de la caserne de la Paillade, donc sapeur-pompier à Montpellier. Et alors, c'est vous qui avez été en première ligne pour aller rechercher ce serpent sur une terrasse, c'est ça ?
Ah oui, mes collègues ont été appelés pour un serpent qui a été découvert sur la terrasse du voisin du propriétaire. Donc, il a dû avoir une drôle de surprise en sortant sur sa terrasse.
Une belle bestiole en plus, hein. Une belle bestiole.
C'est ça. Donc un serpent un petit peu impressionnant parce que ça ressemble pas aux couleurs des livrets qu'on a l'habitude de voir avec la faune locale. Un serpent plutôt orange, donc un serpent des blés américains.
Mm-hmm. Ce qu'on appelle une couleuvre américaine, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, une couleuvre américaine ou serpent des blés. Alors, c'est un serpent qui n'est pas dangereux, qui est plutôt placide, c'est pour ça qu'il est...
Et même assez trouillard, hein, parce que généralement, les couleuvres, elles se débinent quand on marche dans les herbes. Hein.
De manière générale, tous les animaux, et les serpents ne font pas exception à la règle, sont plutôt craintifs. Après, il peut avoir des comportements agressifs quand il y a une rencontre fortuite ou qu'ils se font marcher dessus, mais normalement, ils ont plus peur de l'homme que l'inverse.
Mmh. Alors, la couleuvre américaine, précisons-le, ce beau serpent, donc qui n'est pas venimeux, hein, comme toutes les couleuvres, généralement elle aime bien se prélasser au soleil, ça tombe bien dans la région de Montpellier en ce moment, je pense qu'elle a de quoi faire. Elle a dû se mettre peut-être sur la terrasse pour justement digérer, et évidemment lorsqu'on sort au moment de prendre son petit bain de soleil ou son petit déjeuner, petite surprise quand même, hein, parce qu'on ne reconnaît pas obligatoirement l'espèce qui est incriminée, hein.
Voilà, et nous, c'est ce qui nous inquiète finalement le plus, c'est que les réactions de panique ou les comportements excessifs que ça pourrait provoquer derrière, puisqu'en soi, on a un animal qui est pas dangereux. Maintenant, qui sait comment réagissent les gens quand ils ont la surprise de trouver un serpent sur la terrasse.
Vous auriez peut-être préféré qu'il referme la fenêtre et qu'il laisse le serpent se débiner tout seul, plutôt que d'appeler les pompiers ?
Dans ces cas-là, le mieux à faire, c'est déjà de s'assurer qu'on est bien à l'abri, de ne pas prendre de risques.
Surtout comme si c'est un crotal diamantin.
Voilà, en plus. Et puis, comme on a tous un appareil photo maintenant sur soi avec le smartphone, de prendre une petite photo sans se mettre en danger, comme ça, quand les secours arrivent, on est capable rapidement d'identifier, même s'il est parti se cacher, on est capable de l'identifier assez facilement.
Oui, merci, lieutenant Cognier, de le rappeler, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais ça n'a rien à voir, une vipère avec une couleuvre. La couleuvre a la tête en forme d'olive, alors que la vipère a la tête triangulaire. Mais quand vous êtes devant le serpent, vous prenez pas le temps de vous demander quelle est la forme de la tête, la longueur et la couleur. Donc effectivement, le bon conseil du lieutenant Cognier ce matin des sapeurs-pompiers de Montpellier, eh bien, c'est de dire, vous vous mettez à l'abri et de loin, vous faites une photo et là, une fois que c'est fait, vous pouvez l'envoyer par texto.
Une photo ou être capable de l'identifier. Souvent, le propriétaire, c'est un voisin, donc on peut aussi mener sa petite enquête dans l'immeuble en attendant que les secours arrivent. Mmh. Ça permettra au secours d'avoir les bonnes informations et de s'orienter vers la bonne conduite.
Bon, la couleuvre a été récupérée, elle va bien. Vous l'avez
remise.
Elle
va bien, elle a été confiée rapidement à une association spécialisée dans la récupération des animaux exotiques et sa propriétaire qui a appris entre-temps, mais qui n'était pas là au moment des faits et qui a été informé entre-temps que son serpent avait été aperçu chez la voisine et a été en plus présenté pour le récupérer. Donc.
C'est plus emmerdant que les coqs qui chantent, hein, le serpent qui se balade sur les terrasses.
Un peu plus.
Alors, bien qu'il finit bien.
Et surtout, si vous êtes herpétophile, parce que c'est le nom des amateurs de serpents et de reptiles, vous êtes herpétophile, alors soyez gentils, enfermez vos bestioles, hein, parce que le voisinage n'est pas forcé d'apprécier. Merci beaucoup, lieutenant Cognier, et bonne journée. On vous souhaite un bel été dans la région de Montpellier. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour entamer notre question du jour. Est-ce que des vacances sur un bateau sont des vacances de milliardaires ? Est-ce qu'il faut être riche pour passer ses vacances sur un bateau ? Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez un avis ou une question et on se retrouve avec les spécialistes.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Les routes de l'été qui nous mènent sur des routes plutôt maritimes aujourd'hui, voire fluviales marines. Hein.
Tout à fait.
On va essayer de passer nos vacances sur l'eau et de se poser la question de savoir si on va se ruiner en fait, à passer nos vacances sur l'eau. Vous savez ce qu'on dit en matière de plaisance, les gens qui achètent des bateaux, ils disent il y a deux bons moments, c'est le moment où on l'achète et le moment où on le revend. Hein, dans la vie de plaisancier, quand on achète un bateau, il y a le vrai souci, c'est le moment où on le revend. Non, c'est beaucoup de soucis et souvent beaucoup un budget énorme. Si vous avez un avis sur la question, vous nous appelez au standard au 0826 300 300, soit pour poser des questions à nos spécialistes, soit pour nous donner votre expérience, votre avis sur la question des vacances en bateau. Allez, on va tout de suite s'intéresser à la question.
Sud Radio, les routes de l'été, la parole aux régions.
La parole aux régions, les régions sont montées dans les studios ce matin de Sud Radio pour débattre de cette question des vacances en bateau. Avec nous, Jérémy Bismuth, qui est le DG et le cofondateur de Click & Boat. Bonjour Jérémy.
Bonjour Vincent.
Click & Boat, rappelez-nous en un mot ce que c'est.
Click & Boat, en un mot, je vais repartir de ce que vous avez dit, les deux fameux meilleures journées d'un propriétaire, le premier et le dernier. C'est un constat qu'on a fait il y a 5 ans avec mon associé Edouard Goriou. On se dit, c'est pas possible, les bateaux, les ports sont pleins de bateaux, y compris le 15 août. Tout le monde aimerait naviguer, mais on imagine que ça coûte vachement cher. Et cette équation-là, elle n'était pas bonne. Et on s'est dit, on va la traiter, on va lancer clickandboat.com, une solution qui permet de louer un bateau en quelques clics, à des super tarifs et de façon très simple.
Sorte de bateau libre.
Ouais, oui, finalement, on nous a présenté comme le Airbnb du bateau, comme le Blablacar du bateau, plein de solutions de ce type-là. Mais aujourd'hui, c'est quand même plus de 30 000 bateaux dans plus de 200 ports disponibles un peu partout dans le monde.
D'accord. Est-ce que vous, c'est parti de votre expérience personnelle, vous êtes plaisancier depuis toujours?
Alors, on parlait des régions, les régions du sud. Moi, je suis né à Marseille, j'y ai grandi. Oui. Donc, j'ai eu la chance d'être au bord de l'eau. Jamais d'avoir eu un bateau dans la famille et pourtant d'être allé au port pêcher, à la plage me baigner et voir plein de bateaux rentrer sortir en se disant mais ça a l'air assez génial et donc pas mal de locations finalement puisque c'est une alternative qui est exceptionnelle face à la propriété et donc plutôt une bonne connaissance du secteur de la plaisance dans le sud et complétée par mon associé Edouard qui lui est breton qui a grandi à Begmeil dans un petit port
Méditerranée Atlantique
sur un voilier et finalement entre la Bretagne, la voile, le moteur et le sud, on a couvert plutôt pas mal le produit et la France. Et on a commencé avec Click & Boat fin 2013.
Bien, on va en parler avec vous dans un instant. Je voulais vous présenter notre deuxième invité, c'est Sophie Bayot, qui est directrice générale d'un océan de croisière, qui est le tour opérateur des croisières en France.
C'est ça, oui. Bonjour Vincent.
Bonjour Sophie. Alors, quand on dit tour opérateur de croisière, ça veut dire que vous proposez en fait des croisières dans le monde entier.
C'est-à-dire qu'effectivement, on a en catalogue plus de 22 compagnies de croisière, donc la production des 22 compagnies de croisière et qui distribuent le monde entier sous toutes ses formes, c'est-à-dire des plus petits bateaux d'expédition aux grands navires, aux grands paquebots,
aux brise-glaces. Aux villes flottantes pratiquement.
Aux villes flottantes, voilà.
Ouais, bah parce que quand on voit la taille souvent de ces géants des mers, qui passent d'ailleurs pas très loin de nos villes, il n'y a qu'à s'en persuader en regardant Venise, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est un marché en expansion, la croisière? Est-ce que ça se porte bien?
Oui, c'est un marché depuis des années qui a connu une croissance à deux chiffres régulièrement. Mmh. Il y a plus de 520 000 Français qui ont choisi de partir en croisière l'année dernière. Ils seront encore plus nombreux cette année.
520 000
Oui.
Ah oui, c'est considérable.
C'est vraiment un marché qui est en expansion parce que je pense qu'il y a de nombreux freins qui tombent petit à petit et qui amènent justement les touristes à considérer non pas la croisière de façon différenciée des vacances. Parce que la croisière, ça reste un voyage, des vacances, la découverte de destinations. C'est un mode de vacances.
Oui, c'est un mode de vacances. Sauf que là, c'est le voyage lui-même qui est les vacances. Hein, alors que souvent, on voyage pour aller sur un lieu de vacances. En fait, la maison, elle se déplace. Quoi.
C'est ça, exactement.
Et c'est un peu le même système
lorsqu'on loue un bateau. J'ai des bateaux juste un tout petit peu plus gros.
Voilà, c'est ça.
C'est pas tout à fait la même taille.
C'est ça.
Bien que chez nous, on ait quand même deux activités importantes, puisqu'on peut en effet dormir et vivre à bord pendant une semaine ou deux d'un voilier, d'un catamaran, avec ou sans skipper, parce que je rappelle malgré tout qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le permis bateau pour louer, puisque beaucoup d'offres qui sont proposées avec skipper, avec capitaine.
Et pour les voiliers, de toute façon, il n'y a pas besoin de permis bateau.
Oui, alors ça, j'aime jamais le dire sur les ondes, parce que je trouve ça pas responsable.
Non,
je comprends
dingue,
pas comment cette loi a été faite, mais c'est quand même dire...
C'est quand même mieux de savoir.
Oui, on peut prendre un hélicoptère sans permis, non, enfin, c'est pas raisonnable de rappeler ça. Donc,
surtout quand on a un géant des mers à voile.
Mais c'est vrai qu'on peut, en effet, en France, en tout cas, naviguer sur un voilier sans permis. Mais en revanche, on a une autre activité et qui, elle, ne nécessite pas de s'organiser 6 mois à l'avance, parce que je mène que pour les croisières, c'est aussi des réservations qui se font à l'avance, comme sur un voilier ou un catamaran. Mais lorsque vous êtes déjà à Marseille ou à Cannes ou en Corse ou en Croatie et que vous décidez parce que vous dormez dans un hôtel, ou même si vous faites une croisière sur un paquebot et que vous profitez d'une escale de 12 heures pour aller faire un petit mouillage dans une crique,
la location à la journée.
D'accord. Et ça, finalement, super, ça. On n'est pas du tout dans le tourisme dans le sens où on ne dort pas à bord, on ne vit pas à bord, on est plus dans l'expérience, dans l'activité. Et c'est probablement par ce canal-là qu'on rend la location de bateau la plus accessible et au plus grand nombre.
Ah oui, certainement. Et tout le monde a expérimenté ça avec un ami ou en famille. À un moment, quand on est sur le littoral, on a envie quand même d'aller... moi, je sais que je passe beaucoup de vacances en Corse. Ça n'aurait pas de sens de ne pas monter sur un bateau à un moment donné, effectivement, parce que beaucoup d'endroits sont inaccessibles par la route. Et que simplement, on a envie de visiter des criques, des baies, des coins de rochers. Voilà.
Il existe pas mal de solutions, mais plutôt de groupes. Vous savez, ces navettes qui partent du Vieux-Port, qui vont au Frioul, etc. Mais finalement, le prix des tickets est assez élevé. Et lorsqu'on y va, une famille de 5 ou 6 personnes, et qu'on compare les 5-6 tickets plus la glace à acheter sur place au port, etc., et qu'on le compare à une demi-journée sur un smirigide, pour faire les calanques à Marseille, d'un point de vue budget, on s'y retrouve complètement.
Oui, le budget, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, parce que je rappelle que la question, c'est est-ce qu'il faut être riche pour passer ses vacances sur un bateau ? Alors, Sophie Bayot, en croisière, ça a beaucoup changé. Je pense que lorsqu'on regarde dans l'histoire de la croisière, c'était vraiment un mode d'abord de déplacement et un mode de vacances réservé aux nantis, et puis ça s'est démocratisé.
Ça s'est démocratisé parce que l'offre s'est énormément élargie, et justement cette démocratisation fait qu'aujourd'hui la croisière peut être considérée comme un mode de vacances à part entière. Il y a plusieurs enquêtes qui ont prouvé et démontré que, par exemple, 31% des passagers qui ont réservé une croisière sur les 3 dernières années avaient un revenu de couple inférieur à 65 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on trouve toutes sortes de croisières. Ce qu'il faut bien comprendre, et je trouve que c'est intéressant justement qu'on soit en débat tous les deux autour de cette idée de partir en vacances et de prendre le large justement à bord des bateaux, c'est que il y a une telle diversité. C'est souvent ça en fait le frein. C'est une industrie et une offre qu'on maîtrise assez mal. Donc, on est souvent étonné quand on commence à s'y intéresser de voir la diversité des paquebots, donc leur taille, leur dimension, les prestations qu'on a à bord, les destinations aussi, parce que je rappelle que partir en croisière, c'est partir découvrir.
Oui.
Alors effectivement...
Oui, parce qu'il y a le bateau, mais il y a l'escale.
Mais il y a l'escale, et puis il y a surtout la zone sur laquelle on a envie de voyager. Donc c'est pour ça que j'en ai des bateaux un petit peu plus gros, parce qu'il y a quand même des zones aujourd'hui qui sont magnifiques à aller découvrir. On parle de la planète, je pense qu'on protégera bien ce qu'on connaît, et il y a des zones qui sont accessibles qu'en navire.
Mes amis, on va parler de budget plus avant avec nos invités, parce que c'est quand même ce qui nous occupe aujourd'hui. Aussi de respect de la planète et de protection de cette planète, parce qu'on sait que sur l'eau, il y a beaucoup de polémiques autour de l'utilisation de gros navires. Moins avec le navire à voile, je le concède, Jérémy Bismuth. On se retrouve avec nos invités pour creuser un petit peu le sujet. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez un avis sur la question. Vous savez qu'on est toujours ouvert à vos propositions, suggestions. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Que ce soit des routes maritimes ou fluviales, les vacances sur un bateau, ça vous tente ? Ah, moi aussi, ça m'a donné envie. Et puis parfois, on est quand même extrêmement retenu par le budget. Et notamment quand on veut se payer un bateau. C'est pour ça que nous recevons ce matin deux spécialistes des vacances sur l'eau. Sophie Bayot, qui est directrice générale d'un océan de croisière, premier tour opérateur de croisière en France. Et Jérémy Bismuth, le cofondateur et directeur de Click and Boat, un site où l'on peut évidemment louer des bateaux. Vu le nom, c'est facile de savoir. Sur un simple clic, on imagine bien. Alors, Jérémy Bismuth, se payer un bateau, c'est ça le problème au fond. C'est se payer un bateau pour ses vacances. Si on doit l'acheter, c'est hors de prix, quel que soit le bateau ?
Pas forcément. Je vais peut-être vous surprendre avec quelques chiffres. En France, on compte 1 million de bateaux.
Oui, 1 million de bateaux.
Sur ce million de bateaux, 3/4 sont des petits bateaux à moteur de moins de 7 mètres.
C'est-à-dire des semi-rigides ou
oui,
des barques.
Oui, vous pouvez imaginer en effet du semi-rigide type Zodiac, petits bateaux à moteur, qui sont parfaits pour aller se balader, se baigner, pêcher et rentrer le soir au port. Finalement, la valeur d'occasion, si on allait sur un site de petites annonces, on serait entre 5 et 15 000 euros.
À le prix d'une voiture, en fait.
Un petit bateau moteur coûte à peu près le prix d'une voiture avec 50 000
km. Dès qu'on veut vivre dessus, avoir une cabine présentable, suffisamment de surface
et là,
pour la famille.
C'est exponentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rajouter un mètre sur un bateau et une cabine, vous rajoutez des zéros. Et c'est ce qui fait que vous passez d'un petit semi-rigide à 5 000 euros à un catamaran avec 4 cabines à 2 millions d'euros.
Alors, est-ce que.
Et là, on les rajoute, mais il y a quelques dizaines de mètres de différence aussi.
Jérémy, excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que c'est justifié par la fabrication ou est-ce que c'est purement des prix qui sont gonflés parce qu'il y a une demande et une possibilité pour certains de se les payer ?
Non, il y a vraiment un savoir-faire important. D'ailleurs, la France, avec le groupe Beneteau, est le premier constructeur de bateaux au monde. Il y a un vrai savoir-faire derrière, il y a des coûts. C'est de l'artisanat. Mmh. Quand on va sur une chaîne de production, on commence et on termine des bateaux à la main. Il y a bien sûr des machines autour. Donc, les délais sont très longs, les capacités de production sont courtes. Donc, le prix des bateaux, je pense qu'il est extrêmement justifié. En revanche, il y a un chiffre qui fait beaucoup plus de peine que le prix du bateau en lui-même, je trouve, c'est le nombre de jours d'utilisation du bateau par un propriétaire.
Ah oui, c'est combien en moyenne ? Alors,
chaque année, la Fédération des industries nautiques sort le chiffre, il ne bouge pas, c'est 9 jours par an.
Mais non !
Donc, imaginez, 9 jours par an, et pourtant l'été dure de 3 mois, il fait beau, 9 jours. 9 jours, c'est rien du tout.
Vous voulez dire qu'un gars qui a les moyens, qui va mettre 500 000 euros dans le prix d'une maison dans son bateau, il va quand même s'en servir que 10 jours dans l'année.
Exactement. Et donc, faites le coût d'utilisation de la journée. Vous avez pris votre exemple, on va faire très simple pour tout le monde, moi qui suis nul en calcul mental, 500 000 euros, 10 jours, 50 000 euros la journée. Bravo.
Sans les frais, l'anneau au port.
On n'a rien rajouté. Vous n'avez pas mis d'essence, vous n'avez pas acheté de quoi boire et manger sur le bateau. Voilà, ça fait 50 000 euros la journée. C'est absolument pas raisonnable. C'est pour ça que l'option location est bien plus adaptée. Et c'est ce qu'on vous propose sur Click & Boat.
Et vous évidemment, ce sont exactement comme des propriétaires de maisons sur terre qui loueraient leur maison de vacances, enfin, ou leur maison ou leur domicile pendant les vacances. Vous faites la même chose avec les bateaux. Vous permettez à des gens qui possèdent un bateau de le louer à des vacanciers.
Donc, Click & Boat existe depuis 5 ans. Initialement, c'était uniquement une plateforme de location de bateaux entre particuliers. Mais depuis maintenant 2 ans, on offre également des bateaux de professionnels, donc des loueurs, en France, mais aussi un peu partout dans le monde.
Parce que ça aussi, c'est un bon investissement pour certaines sociétés de s'acheter des bateaux, exactement comme une flotte de voitures, et de vivre de la location.
Tout à fait.
Vous faites l'intermédiaire, vous êtes la plateforme.
Exactement, on propose plus de 30 000 bateaux dans plus de 20 pays.
Ça, c'est pour la plaisance. Donc, vous avez compris, n'essayez même pas d'acheter un bateau. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire plaisir en les louant et en gagnant de l'argent, on peut dire. Hein. Pour ceux qui louent, ils gagnent de l'argent par rapport au fait d'acheter.
C'est une évidence, c'est bien plus économique. Si vous prenez l'exemple, vous êtes en Corse et vous décidez de louer un semi-rigide avec 5-6 copains en famille pour aller vous baigner, passer une journée, en tenant compte des quelques litres d'essence, d'une glacière bien garnie, vous en revenez avec un coût par personne entre 40 et 50 euros. Pour une journée dont toute la famille se souviendra.
Ah, ça c'est clair. Hein, et pour des bonnes raisons. Hein. Pas parce qu'on s'est paumé le soir.
Et avec une très bonne raison, il y aura le bon skipper si besoin ou le skipper capitaine à bord.
Sophie Bayot, vous avec votre grande agence de croisière, vous le disiez, vous avez un nombre de compagnies de croisière dont vous proposez les services. Aujourd'hui, se payer une semaine ou 15 jours de croisière, vous disiez, c'est abordable pour à peu près tout le monde. En tout cas, on va dire la middle class, hein, la classe moyenne, à les revenus suffisant, évidemment, si on est vraiment fauché, il n'en est pas question, mais pas plus que les vacances d'ailleurs.
Exactement.
Donc, ça veut dire qu'une croisière, ça n'est pas plus cher que des vacances à terre en hôtel.
Au contraire, c'est l'approche qui doit être différente. D'abord, ce qui va permettre de faire le choix d'une croisière, c'est la destination. J'y reviens parce que c'est très important. C'est que si d'un seul coup vous avez envie d'aller dans le nord et de découvrir les fjords de Norvège, bon, ça sera quand même plus facile en bateau. La Grèce aussi.
Et en été.
Non, parce qu'en hiver,
c'est très beau aussi.
Avec les aurores boréales, tout à fait, on peut monter. Donc, et puis, il y a des zones qui séduisent énormément les passagers aussi, qui sont les zones en Grèce.
Faire plusieurs îles en une semaine, les Cyclades,
ça fait quand même rêver et c'est très joli à faire en bateau. Et
oui,
c'est
quand,
accessible.
Quand, voilà. Excusez-moi, mais quand on parle d'île, on peut imaginer que l'approche par la mer s'explique.
C'est très différent.
Et puis, surtout, elle se justifie complètement. Hein, c'est-à-dire, si on veut avoir l'âme du marin grec pendant ses vacances, c'est mieux de le faire en bateau.
Heureux comme Ulysse, ça fait un beau voyage.
Exactement.
Mais c'est surtout, c'est un avantage, la croisière, c'est que c'est votre hôtel qui se déplace. Donc, une fois que vous avez embarqué, vous visitez chaque jour une île nouvelle. Donc, c'est vrai qu'il y a des destinations comme les Cyclades, la Méditerranée, la Norvège qui s'y prêtent et qui sont accessibles, je le redis.
Mais donnez-moi des prix à peu près pour qu'on se rende compte.
Il y a sur le marché en ce moment encore des possibilités pour cet été, justement. Vous avez des croisières pour découvrir les fjords avec des compagnies comme Holland America. Vous pouvez partir 11 jours en pension complète, tout inclus, donc au départ d'Amsterdam, et vous êtes à des budgets de 900 euros par personne.
Ah oui 11 jours, 900 euros. Ah oui,
on
ça,
a aussi
bien,
des croisières, les îles grecques en 8 jours, avec toutes les boissons, les excursions offertes.
Des boissons, attention, pas le vin, hein, j'imagine.
Si,
Le vin aussi.
Oui, sur des compagnies.
Enfin, la réserve du patron, hein, on peut pas choisir la bouteille sur la carte.
À bord de compagnies comme la compagnie grecque Celestial Croisière, vous allez avoir vos vacances en 8 jours, absolument tout compris, et les excursions, donc chaque escale, pour 1 200 € par personne.
Attendez, excusez-moi Sophie, soyons honnêtes, où est-ce qu'ils se payent? Est-ce qu'il y a de la vente additionnelle? Est-ce qu'il y a des excursions qui ne sont pas comprises?
Mais pas du tout, parce qu'en fait, les compagnies ont toujours fonctionné. C'est l'offre qui permet, c'est la, j'allais dire, plus on vend...
L'économie d'échelle,
voilà. Je suis sûr que tout le monde comprenne, mais voilà, c'est ça. Ce système d'économie d'échelle.
C'est les volumes qui leur font leur chiffre d'affaires.
C'est les volumes qui permettent, exactement.
Et notamment pendant les vacances. Parce que je suppose que ces croisières de vacances, elles perdurent toute l'année. Et ce n'est pas la même clientèle.
Ah ben non, alors c'est d'abord, il faut revenir aussi, il faut faire tout de suite tomber un tabou, hein, parce qu'aujourd'hui, 35% des clients ont moins de 40 ans à bord des navires de croisière.
Ah ouais.
Donc, voilà.
Ce n'est pas, les croisières ne sont pas réservées au troisième âge.
Non, exactement. À tel point que l'année dernière, en 2018, la moyenne d'âge, c'est de 48 ans sur l'ensemble des bateaux, des compagnies et au niveau mondial. Donc voilà, tout simplement aussi parce que quand on part avec ses enfants, c'est un super bon plan pour les familles. Beaucoup de compagnies aujourd'hui, quand vous partez en vacances en famille avec vos enfants, s'ils ont moins de 17 ans, qu'ils partagent votre cabine avec, ils sont gratuits. Ils ne payent que les taxes
portuaires. S'ils partagent votre cabine.
Oui.
C'est-à-dire que vous partez avec votre femme, vous dites chouette, on va se retrouver un peu tranquille.
Mais après ça, je vois
et on a les gosses
Vincent,
dans la cabine.
Chacun fait comme il veut, chacun s'adapte. Moi, je ne peux pas répondre à toutes les problématiques.
Non, mais ce sont des cabines familiales.
Là, je réponds à une problématique de budget.
Oui, mais c'est des cabines familiales. C'est ça que ça
voilà,
veut dire.
C'est des suites,
hein, comme
familiales.
Des suites. Oui, d'accord. OK.
Bon, et donc voilà, un, c'est accessible. Non, ce n'est plus réservé aux personnes âgées au troisième âge. Trois, on ne s'ennuie pas du tout. Les bateaux aujourd'hui proposent tellement d'activités, d'animations à bord, de services, donc c'est un club
d'accord.
de vacances, la qualité de certaines prestations hôtelières, le rien à penser et la découverte.
Alors, on le comprend, tant en plaisance qu'en matière de croisière, vous répondez tous les deux à notre question, ce ne sont pas des vacances de riches, c'est-à-dire que c'est abordable pour tout le monde, et évidemment, selon son budget, il y a des vacances plus ou moins lointaines, plus ou moins
voilà, et si vous me permettez, je voudrais ajouter aussi que c'est une question de budget, mais que les beaux voyages s'anticipent et qu'ils restent aussi accessibles. J'en veux pour preuve que de découvrir des zones sur des croisières d'expédition pour lesquelles j'ai une grande tendresse reste accessible. Vous pouvez partir découvrir l'Arctique en ce moment et le pôle Nord, qui est destination.
Oui, le cercle polaire.
Et on a des départs pour des croisières de 9 nuits, 10 jours à partir de 4 000 €, tout inclus, y compris l'expédition, l'encadrement, les guides, les découvertes en zodiaque. Donc ça s'anticipe,
Sophie,
ça se prépare, mais c'est possible.
Sophie Bayot, j'ai quand même une question. Vous parlez de cercle arctique, et là tout d'un coup il y a un truc qui sonne là dans mon esprit, c'est environnement.
Bien sûr.
Qu'on se dit que d'envoyer des gros paquebots au pôle Nord qui est en train de fondre à cause du réchauffement climatique. Alors est-ce qu'il y a un effort sur les... Vous savez, on dit tout le temps les avions de nouvelle génération sont moins polluants. Voilà. Est-ce que les paquebots de nouvelle génération le sont aussi?
Le seront définitivement. Il faut faire tomber deux idées reçues et qui ne sont pas les bonnes. D'abord, les très très grands paquebots sont limités à certaines zones de navigation, donc ne vont pas n'importe où. Ensuite, les compagnies ont pris conscience, bien entendu, parce que travailler avec l'eau, la mer, les océans, c'est notre cœur de métier, c'est quelque chose qu'on va protéger. Donc les compagnies sont en train de revoir la construction de leur prochain bateau pour passer au GNL, c'est très important. On a aussi des installations comme les scrubbers, qui sont des installations... des installations dans les cheminées qui vont permettre de réduire...
De filtrer, en fait.
Exactement.
C'est comme les filtres à particules sur nos véhicules.
Avec une projection mini-goudelette, exactement.
Okay.
On a aussi les pots catalytiques, les piles à combustion, on avance sur...
C'est un sujet qui est très intéressant. Du côté de Click & Boat, est-ce qu'on a une sorte de guide des bonnes pratiques en mer dont on fait part aux loueurs et surtout aux locataires des
bien
bateaux?
Bien sûr, bonnes pratiques, on peut que rappeler et commencer par la sécurité. C'est quand même
bien
fondamental.
Bien sûr, déjà. Parce que là, on est autant sur un bateau, un paquebot, on est pris en charge. Quand on loue un bateau, c'est soi-même qui assure sa sécurité.
Exactement. Donc la sécurité, première règle. Beaucoup de respect lorsque vous lancez l'ancre. Il faut respecter le fond de l'eau, il faut faire attention où est-ce
qu'on
le
met. Alors d'abord, pas sur quelqu'un.
Oui, alors ça c'est pas mal parce que ça peut être douloureux, mais plus que ça, pour regarder ce qu'il y a au fond.
Non, sérieusement, oui.
Par rapport aux algues, il y a beaucoup d'espèces qui sont protégées, que ce soit dans les calanques près de Marseille ou ailleurs, donc il faut faire attention à ça.
D'accord.
Et puis l'avantage surtout, c'est qu'on navigue sur des petits bateaux, pour la plupart d'entre eux sans moteur puisqu'ils sont à voile, pas de bruit. pas de pollution, rien que du plaisir. Et d'un point de vue écologique, c'est plutôt très bien.
Et je sais qu'il y a aussi des grands navires à voile. Hein, peut-être ça va se développer de plus en plus d'ailleurs. Alors, c'est mixte. Hein, c'est comme les voitures hybrides. Il y a des moteurs quand même, parce que quand il n'y a pas de vent, il faut pouvoir avancer.
Hein, Sophie Bayot, on est d'accord. Pour ramener les passagers au port.
Oui,
c'est important.
À un moment donné. Allez, mes amis, on va en terminer avec cette question. Remercier Sophie Bayot d'Un océan de croisière. Merci d'être venue nous parler de la croisière.
Bah,
écoutez, tant mieux. Hein, c'est un peu l'idée aussi. Merci Jérémy Bismuth de Click & Boat de nous donner envie de se louer un you-you ou un yacht. Hein, ça, c'est selon votre budget, bien entendu, pendant les vacances. On a répondu, je crois, hein, Marine. Hein. Ce ne sont pas des vacances de riches.
Hein. On peut. Il y a des solutions pour chaque budget.
Tous les budgets.
Tous les produits sont en ligne. Hein.
Absolument. Et on ne peut que vous inciter à passer vos vacances sur l'eau parce que c'est un moment inoubliable, quelle que soit la durée. Hein. Ça peut être pour 5 heures comme pour 50 jours. Jérémy Bismuth nous le disait, ça fait des souvenirs pour tout le monde. On va plonger maintenant, puisqu'on est revenu au port, on va plonger dans le sac de plage de Marine Van Tournout.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Après nos routes maritimes, je dis ça pour Marine, hein, parce que ça lui plaît le côté maritime. Après nos routes maritimes, nous sommes revenus sur terre et tout à l'heure, nous irons nous balader du côté des Charentes.
Oui. Hein,
alors, la Charente et la Charente maritime, parce qu'il y en a deux Charentes.
Ben oui.
Vous le saviez, hein, Marine, qu'en France, il y a deux Charentes quand même.
Ben tout à fait. Et puis, on a une journaliste rochelaise dans la rédaction, alors forcément.
Alors, c'est bien vendu, la Charente maritime. Et on s'y baladera tout à l'heure. D'ailleurs, on va y aller pratiquement tout de suite, Marine, hein, parce que je crois que dans votre sac de plage, ça sent la Charente-Maritime.
Sud Radio, les routes de l'été, mon sac de plage.
Marine, on est dans un été très culturel, hein, tous les jours à cette heure-ci, pour faire un peu le tour des festivals, des événements, peut-être même des livres de vacances. Aujourd'hui, c'est quoi ?
Eh bien, aujourd'hui, ça sent la folie. Ce matin, dans mon sac de plage.
La folie de Marine.
Des franco-folies. Elles débutent aujourd'hui à La Rochelle. Jusqu'à dimanche, la 35e édition battra son plein, avec plus de 80 concerts prévus, y compris du gratuit. 150 000 personnes attendues dans une dizaine de lieux différents. Et pour la première fois de son histoire, les franco vont s'offrir aux fans de hard rock une scène de heavy metal, exclusivement française. Et surtout, alors ça c'est l'événement, nouveauté de cette année, Fanny Ardant, François Hollande et Michel Houellebecq vont chanter.
Ensemble ? Pour un groupe ?
Alors, chaque jour, en fait, une personnalité différente va raconter l'histoire de sa vie en chanson. Oui, oui. C'est un vent de folie hein, sur La Rochelle, Vincent.
Ah bah ça c'est la folie de Gérard Pont hein, et de ce magnifique festival de La Rochelle. Les franco-folies qui, d'année en année, drainent un monde ahurissant.
C'est certain.
Ahurissant, et je suis sûr que cette année, ça ne dérogera pas à la règle. On va tout de suite appeler le directeur artistique de ce beau festival, Pierre Poli. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Comment fait-il à La Rochelle aujourd'hui ? Est-ce que la folie est en train de monter doucement ?
Plus que doucement, je dirais même plus, non, pas plus que doucement, mais justement au contraire, elle monte, la tension monte, l'excitation monte, il fait beau, il y a un petit peu de vent, tout le monde s'affaire à faire en sorte que tout démarre dans le temps, donc tout va très bien.
Alors, c'est extraordinaire parce que ce festival, c'est un succès planétaire. Tout le monde en parle. Ça a mis un coup de projo sur La Rochelle qui en avait besoin parce que toutes les villes en ont besoin. Mais La Rochelle, c'est déjà une icône de cette côte atlantique. Chaque année, de plus en plus de monde et des programmations de folie. C'est le cas de le dire. Marine me disait à l'instant ce coup de génie de faire intervenir Fanny Ardant, François Hollande, Michel Houellebecq. Sous quelle forme est-ce qu'ils vont intervenir ?
Et oui, il y a aussi Jean Tellet.
Et Jean Tellet,
peut-être un peu moins connu
en
public.
Si, on l'adore.
Ok. Donc en effet, c'est un nouveau projet qui avait été pensé par Gérard Pont, qui met finalement une personnalité un peu dans son histoire vis-à-vis de la musique. On a tous les titres des chansons qui ont un peu marqué ou qui marquent notre quotidien.
C'est comme si chacun racontait son histoire avec la musique, sa playlist idéale, quoi.
C'est un peu ça, la playlist de sa vie, en quelque sorte. Et il y a effectivement chaque invité a choisi entre 8 titres, 8 chansons qui seront jouées. Alors, ce ne sera pas les invités qui chanteront.
Ah, malheureusement. Non. Eux, ce sont les narrateurs, en quelque sorte.
Voilà, narration, ils expliqueront effectivement quel est l'impact de tel titre sur leur vie, sur leur carrière. Mm-hmm. Ce sera des musiciens qui joueront les titres en live sur la scène à côté de chaque invité, les titres en question. Donc voilà, c'est un nouveau projet qu'on démarre cette année. On est très impatients de voir ce que
Mais je trouve ça une idée. Je trouve ça une idée formidable. Et vous savez quoi, Pierre Poli, tout le monde va s'identifier, parce que c'est vrai que les musiques rythment nos vies comme un peu les gourmandises, les plats que l'on garde en souvenir. Ça fait remonter les souvenirs, les musiques, comme les parfums.
Tout à fait, c'est un peu la bande originale de notre vie, quoi.
Ouais, exactement.
On en a tous des titres comme ça, où quand on réécoute, on se dit « Ah, mais oui, alors ça me rappelle ma première rencontre, ou alors mon premier travail, ou voilà, c'est un peu dans cette idée, finalement. »
Bon, ça dure combien de temps, les francopholies ? Est-ce que ça s'augmente d'année en année ? Est-ce que c'est toujours la même période ?
C'est la même période, on est toujours sur 5 jours, dès le matin.
10, 11, 12, 13, 14.
C'est ça, du matin jusqu'au soir, jusqu'à quasiment 3 heures du matin.
Il y a déjà des choses qui sont complètes.
Ah bah oui, j'imagine.
Qui sont complètes, oui, il y en a plusieurs soirées déjà sur la grande scène qui sont complètes. On a toutes les dates au Grand Théâtre qui sont complètes également, et on a la moitié à peu près des dates... des concerts, pardon, qui sont au théâtre Verdière, la Coursive, aussi, qui sont complets. Et puis, en effet, des événements comme La Mémoire qui chante, par exemple, qui sont des événements gratuits, ont été complets en à peu près deux, trois heures seulement. Puis après, on a tout un tas d'événements comme ça, gratuits, en ville, autour de la littérature, autour du cinéma, où on parle de documentaires liés à la musique, liés à des artistes. Tout ça, sont aussi des événements gratuits. À disposition du public dès l'après-midi pour vraiment s'enrichir, réfléchir aussi au monde de demain
et baigner dedans, quoi. Vraiment baigner dedans toute la journée. Alors, Pierre Poli, qui sont les highlights? Voilà, faites-nous rêver avec les musiciens, les chanteurs, les têtes d'affiche de ce festival.
Alors les highlights, oui, en fait chaque jour on a une programmation avec une couleur un peu marquée. Si je dois parler uniquement pour l'instant des têtes d'affiche, on est sur M. Angèle pour la première soirée, avec Gaëtan Roussel. Ouais. Jeudi, Christine and the Queen, Hocus Pocus, Deluxe, The Blaze.
Ça va bouger.
Vendredi, Aya Nakamura, Lompal, IAM Symphonique, Columbine.
Génial.
Le samedi, Soprano, Boulevard Désert, LEJ, Broken Back. Mmh. Et le dimanche, Patrick Noël, Zazie, Jérémy Frérot, Trois Cafés Gourmands, et puis on aura le feu d'artifice du 14 juillet.
On aura fait un bon état des lieux de la francophonie musicale, là, des chanteurs multigénérationnels, hein, comme d'habitude, s'adressant à tout public.
Et c'est ça, en fait, c'est un peu l'ADN du festival, finalement, être un peu la vitrine de la production musicale française, avec comme ADN évidemment la chanson, mais la chanson aujourd'hui se déploie, se traduit de différentes façons dans la musique urbaine, dans la pop, dans le rock, et effectivement,
vous
parliez tout à l'heure dans le métal, exactement. J'allais justement rebondir là-dessus, c'est ça qui est assez intéressant, enfin même très intéressant pour les francophonies, c'est qu'on peut faire des grands écarts. Aller de Jean-Jacques Debout, grand parolier, à effectivement Massisteria en métal.
Donc il y en a pour tous les goûts à La Rochelle cette année. Bon, merci beaucoup. On vous souhaite un très très beau festival. Vous rappelez que Sud Radio s'est bien mobilisé. D'ailleurs, on retrouvera notre ami Yvan Cujus dans un loft spécial francophonie ce soir à 20h. Hein, et vendredi, vous aurez Patrick Roger et Cécile de Ménibus qui se déplacent, et Christophe Bordet aussi. Hein, tout Sud Radio, à part nous qui tenons la baraque, sera à La Rochelle pour ce festival. Voilà, et on salue toutes les équipes des Francopholies et Gérard Pont qui sont à la manœuvre. Allez, le temps pour nous de mettre à l'honneur, comme chaque jour, quelqu'un d'influence.
Sud Radio, les routes de l'été. Les blogueurs à l'honneur.
Blogueurs à l'honneur, blogueurs, instagrammeurs, youtubeurs, facebookeurs, enfin tout ce qui concerne les médias, les e-médias, comme on dit. Et aujourd'hui, alors c'est un vrai Charentais qui est avec nous. D'ailleurs, je sais pas faire l'accent, mais un vrai Charentais, c'est notre ami Pictu. Bonjour Pictu.
Bonjour Marine, bonjour Vincent. On me fait plaisir de venir d'entendre parler de La Rochelle. Et puis La Rochelle avec Marine. Toi Vincent, on me fait plaisir de te retrouver, on s'est croisés. Et puis alors surtout, plein de bonjour à tous chez les... Hein, qu'écoutant le petit poste, parce que Sud Radio, mais rigolez pas Marine, Sud Radio est un petit poste. Les dommages que vous m'avez pas invité d'aller là-haut, parce que je serais pas parti les mains vides.
Ah oui, c'est ça. Quand
mais
Pictu vient,
hein,
Pictu, on se connaît bien, on s'est souvent croisé à midi en France, sur France 3, et quand on était dans la région de Saintes, la Saintonge, c'est quand même le cœur de ta région, ça.
Ah ben la Saintonge, il faut dire, pour vous donner l'histoire et ta liaison par rapport à La Rochelle, on est qu'avant la préfecture, on était Saintes. Et le Napoléon qui a décidé de l'emmener à La Rochelle.
Oh, le vilain.
Eh bien, en Saint-Onge, je ne pouvais pas savoir, parce que vous disiez tout à l'heure Charente, Charente-Maritime. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que quand les gens ont pris assez le soleil sur les plages, sur la plage, eh bien après, ils viennent dans les terres. Mm-hmm. Mais alors, à quelle heure on mange, Vincent? Parce que ça me donne envie de parler de nourriture. J'ai faim.
On mangera, nous, à partir de midi, quand on aura terminé l'émission, avec les grands chefs charentais.
Mais on salivera avant, je vous rassure.
On a le temps de saliver tout à l'heure. On interrogera Loïc Lecoing, le chef du domaine des étangs à Massignac, en Charente, qui nous parlera de son menu du jour. Mais pour l'instant, Pictu, tu disais que toi, tu ne te déplaçais jamais les mains vides. J'ai entendu dire que tu allais porter la Charente dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Dans
alors oui, là pour tout vous dire, je suis sur le trottoir à l'ombre, pas loin d'une pause gourmande, mais je vais pas donner la pub, un endroit où on mange, et je suis à Rouen, dans la banlieue de Rouen, j'ai la chance d'être invité d'honneur du premier port de pêche français, qui est le port de Boulogne-sur-Mer.
N'en déplaise au Rochelet.
Mais c'est normal. Donc, quand Pictu monte quelque part, eh ben, vous vous doutez bien que je ne vais pas monter les vins vides.
Qu'est-ce que t'emportes?
Alors,
du grillon charentais, dis-moi la vérité.
Ah, tu l'as senti, du grillon charentais. Oui. Alors, dans des bocaux, parce que comme c'est, même là j'ai mis une glacière, mais on est dans des bocaux.
Oui.
J'emmène de la galette.
Attends, explique quand même. Le grillon, c'est une sorte de grosse rillette.
Ah, le grillon. Alors, il y a un gros avantage. Le grillon charentais, en résumé, ce sont des cubes de porc que l'on fait confire, cuire doucement dans la graisse, et après on enlève la graisse. Alors nous, on se vante, on dit les dames peuvent manger du grillon parce que le grillon saintongeais, charentais, digne de ce nom, ne doit pas excéder 15% de gras.
Le gras, c'est le goût,
mais c'est bon, c'est bon. Alors, ça, on mange les huîtres comme ça chez nous avec,
Oui, c'est ça.
Ça se mange froid, c'est très bon.
Est-ce que t'as emporté des cagouilles?
Alors, les cagouilles, j'en ai amené juste un bocal à quelqu'un parce que ça m'a été demandé.
C'est le nom des escargots en Charente.
Les cagouilles, les bons comme tout. Mais j'ai surtout emmené de la galette charentaise.
Aïe.
Les drôles, oui, on dit les drôles chez nous pour les enfants, les drôlesses pour les filles. D'ailleurs, Marine est une belle drôlesse.
Tu te calmes, Pictu. Hein.
Mais non, mais là, c'est de la radio, je peux pas le voir, mais je sens qu'elle est adorable. Elle est belle. J'adore sa voix.
Tant mieux, c'est bien pour la radio.
Vous allez me faire rougir.
Non, mais attendez, tu peux me dire, tu ma belle. Et par contre, Vincent, il faut que tu me promettes un jour de me laisser monter là-haut pour que je te présente en vrai avec Marine. Tu vois, ça, c'est des défis à relever. Je monte à Nord Radio, pas à Sud Radio, pardon, et puis je vais vous apporter les affaires. Alors, la galette charentaise, il y a du beurre, il y a de la bonne farine.
C'est sûr qu'il y a
de l'angélique.
L'angélique confite.
Ah ben oui, c'est bon comme tout. Tu veux savoir ce que j'ai emmené d'autre?
Et puis après, on va rendre l'antenne, on va te laisser repartir sur la route. Dis-moi tout.
Ben, du Pinot des Charentes, c'est obligatoire, et du cognac à consommer avec modération.
Oh là là, dans quelques minutes, on ira se balader du côté de Cognac, et pas loin, on va trouver une tonnellerie avec un meilleur ouvrier de France tonnelier, la tonnellerie Taranceau, et on reparlera évidemment un petit peu d'eau de vie, c'est normal, dans ce coin de France.
C'est fantastique, quel beau voyage, quelle belle route.
Et Pictu, tu sais quoi? De Boulogne-sur-Mer, tu vas redescendre des harengs. Des harengs fumés.
Alors moi, je connais pas tout, mais on va aller voir là-bas comment ça se passe.
Exactement. Tu vas voir, ça va te changer de tes poissons atlantiques, ceux de la mer du Nord.
Allez. Tu ne changeras donc jamais. Je vous embrasse tous les deux et au plaisir de se retrouver.
Merci et bonne route. On retrouve évidemment Pictu sur son site, pictu.fr, et puis c'est un blogueur.
Tout à fait.
Marine.
Avec ses coups de cœur, le chaudron de Pictu sur le site internet, vous avez plein de belles photos, plein de belles choses à découvrir sur son site.
Et croyez-moi, le chaudron de Pictu, il est bien rempli quand vous connaissez le personnage. Voilà, cette icône charentaise qui nous introduit immédiatement dans nos Charentes, les Charentes qu'on aime et qu'on va découvrir au cours de cette deuxième heure d'émission dans toutes ses splendeurs.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
Toujours les musiques d'été. Tout à l'heure, le directeur artistique des Francofolies disait on va rencontrer la playlist de la vie de certaines personnalités, François Hollande, Fanny Ardant, lors du festival. Bah moi, c'est ma playlist que je vous fais écouter. Les musiques de ma vie, John Cougar Mellencamp, 1987. Allez, je vous le dis juste en passant, c'est l'année où j'ai intégré l'équipe de Télématin. Hein, j'étais jeune et sémillant. Et voilà, voilà ce qu'il en reste aujourd'hui.
Et
vieux
pas
et sémillant. C'est ça, Marine. Absolument. Allez, on plonge dans les Charentes aujourd'hui. Les Charentes. Alors, deux beaux départements, Charente, Charente-Maritime. Et comme vous le savez, on va se balader partout sur la terre charentaise à la découverte des lieux, des sites, mais aussi des spécialités gastronomiques et culinaires, parce qu'il n'en manque pas, et c'est ce que nous racontait notre ami Picchu, icône charentaise, juste avant le journal. Il nous parlait déjà du panier qui trimballe partout en France, et il y en a des spécialités charentaises, on va y revenir tout de suite. Mais tout d'abord, on va s'intéresser au meilleur plan de la capitale de la Charente.
Sud Radio, les routes de l'été, vos meilleurs plans.
Les meilleurs plans, ce sont ceux d'Angoulême. Angoulême, évidemment, ville connue pour, je dirais d'abord pour ses festivals, pour ses événements tout au long de l'année. Mais j'avais envie de connaître Angoulême d'une autre façon avec un ami de l'émission, Enrico Domingos, qui est à l'office de tourisme d'Angoulême. Bonjour Enrico.
Bonjour Vincent.
Alors Angoulême, d'abord c'est une ville blonde, hein, sur le plan architectural, c'est cette pierre, ce tuf blond qui est partout dans les rues.
Exactement, on a une ville, alors faut peut-être rappeler aux auditeurs qu'on est surtout une ville sur un promontoire rocheux, hein. Oui. On est une ville entourée par des remparts, ils ont été arasés, ce qui permet aux gens vraiment de se balader, de découvrir tout au long des remparts cette fameuse pierre dont vous parliez, qui est très blanche et qui est très caractéristique de la Charente. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui touche les gens et les gens qui découvrent la ville d'Angoulême, qui sont toujours surpris.
Oui, ça prend bien la lumière, hein. Quand il y a du soleil, ça fait comme des réflecteurs, ça brille dans toutes les rues.
Exactement, ça brille partout et ça brille surtout sur la façade de la cathédrale. Pour les gens qui n'auraient jamais vu la façade de la cathédrale romane de la ville d'Angoulême, elle est juste extraordinaire. Et il faut en profiter, c'est vraiment un des monuments phares de la ville,
oui,
bien
c'est
sûr
vrai
avec l'hôtel de ville où nous sommes.
Vous faites bien de le signaler Enrico, parce qu'on n'en parle pas souvent de la cathédrale d'Angoulême.
Eh ben on oublie qu'on a une cathédrale romane qui fait partie des plus belles cathédrales romanes du sud-ouest. Elle a cette particularité d'avoir cette façade, mais elle a surtout une autre particularité qui est peut-être connue de plus en plus par les gens, c'est que le trésor de la cathédrale, qui n'est pas un trésor comme les autres, qui a été scénographié par Jean-Michel Autoniel, un des artistes contemporains les plus importants en France, peut se visiter. Donc il y a toute une scénographie faite par lui. Oui, ça se visite maintenant depuis un an, c'est sur réservation bien sûr, mais on peut la visiter. Vous connaissez bien sûr le travail de Jean-Michel Autoniel, qui travaille beaucoup avec le verre de Murano, tout simplement, donc vous verrez.
C'est magnifique, donc c'est tout en transparence et en lumière.
Exactement, on parle de cette lumière-là quand on fait la balade et quand on rentre dans la salle des merveilles, bien sûr.
Ouais, la salle des merveilles, et là on est au cœur de la chrétienté charentaise, et surtout de ce monde roman, mais remis en scène au goût du jour, quoi, voilà.
Exactement, et puis vous parliez tout à l'heure des festivals, Vincent, mais on parle du Festival de la BD et de la Cité des Festivals, mais on n'oublie pas que la BD est présente tout au long de l'année sur le territoire et sur le pays d'Angoulême, avec bien sûr le musée et une grosse exposition, puisque vous parliez des bons plans. Mmh. On a une grosse exposition pendant tout l'été qui est la BD et la mode, hein. Donc vous verrez l'influence de la mode à travers la bande dessinée.
Génial.
C'est assez exceptionnel, vous verrez des dessins d'Yves Saint-Laurent, des robes de Mugler, vous verrez plein de belles choses, et tout ça avec bien sûr l'histoire de la BD, donc ça c'est assez exceptionnel. Et bien sûr, puisque vous parliez de la balade dans la ville, les fameux murs peints sur la bande dessinée à travers la ville.
Bien
donc 26
sûr.
Murs peints à découvrir quand on se balade dans le vieil Angoulême.
On peut signaler d'ailleurs au passage, parce que moi j'ai pas honte de ça, j'ai fait les arts déco, donc je suis dessinateur d'origine. je veux dire, Angoulême est une ville du dessin, quoi. Grâce à la BD, grâce au dessin animé et grâce au graphisme, c'est une ville qui est très appétante, hein, pour la jeunesse qui sort d'études.
Exactement, puisqu'on a tout le quartier Magélis qui est au pied de la ville, puisque comme il y a une ville haute, il y a une ville basse, et tout le long du fleuve, vous avez des écoles, vous avez bien sûr le musée de la BD, mais il y a également le musée du papier, puisqu'il y a une tradition papetière
du
fleuve. Donc ça, c'est assez important.
Le fameux velin d'Angoulême, hein, qui était un papier tradit des aquarellistes, quoi.
Exactement. C'était vraiment, il reste encore un moulin, c'est le moulin du Verger à Puymoyen, que vous pouvez aller visiter, et on peut encore acheter ce papier ou chez nous à l'office de tourisme ou en allant directement au moulin du Verger. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour les fans de dessins d'aquarelle, c'est vraiment le top.
Oui, et puis alors, je le disais, Angoulême, comme vous le disiez, connu par les remparts, le circuit des remparts aussi.
Oui, circuit des remparts, cette course. Mi-septembre.
Mi-septembre. Un peu plus tard, les gastronomades. À l'automne, les gastronomades, c'est un grand festival, évidemment, de cuisine et de gastronomie.
Et je sais que vous êtes fan.
Ah bah, évidemment que je suis fan. Puis c'est mon copain Jean-Seb Petit-Demange, avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui est pratiquement sa carte de membre permanent des gastronomades. Mais pendant l'été en particulier, on n'oublie pas les vacanciers, j'imagine.
On n'oublie pas les vacanciers, on n'oublie pas également que même si on est une ville et qu'on est la capitale de la Charente, on a cette particularité d'être une ville à la campagne. Comme je vous disais, on a le fleuve, et le long du fleuve ont été aménagés plein de sites, plein de possibilités de se balader. Et on a un truc assez génial, puisqu'on a récupéré le chemin de halage qui va d'Angoulême à Cognac et même encore un peu plus loin, et on peut se balader à vélo tout au long du fleuve.
Ah, génial.
Et pour les familles, puisque vous parliez des familles et des gens qui viennent se balader, des touristes, on a une particularité depuis cette année. On a une chasse au trésor en vélo qui se fait tout le long du fleuve. Alors c'est fait dans le cadre de la région, Nouvelle-Aquitaine bien sûr.
Oui, oui.
C'est Terra Aventura, c'est une application gratuite, tout est gratuit à Angoulême. C'est une application gratuite, on va pouvoir se balader.
Je note qu'on va pouvoir aller déjeuner alors.
oui, à la maison alors, à la maison Vincent.
Oui, d'accord.
À la maison ça sera gratuit.
Okay, Enrico.
Et on peut se balader le long du fleuve et on cherche des pins qui s'appellent des poys. Et on a le seul parcours vélo qui se fait. Il faut faire une chasse au trésor, on doit trouver une espèce de gourde.
Ne tenez pas votre guidon d'une main et le téléphone de l'autre, faites un peu attention.
Et voilà, on peut découvrir tout le long du fleuve l'histoire de la ville d'Angoulême, les particularités. Il y a toute une histoire qui vous est racontée. Et bien sûr, on se calque sur la découverte de la ville. Oui. Il existe également une chasse au trésor sur la ville d'Angoulême, une chasse au trésor sur le pays d'Angoulême. On en a trois sur notre territoire. Et c'est vraiment génial pour les gens, les enfants, les adultes. Et les gens qui aiment la nature, bien sûr.
Ouais, et puis merci Enrico de souligner ce côté, je dirais indolent de la Charente. Hein. C'est pas un torrent de montagne, c'est une rivière qui coule doucement, qui est indolente et qui donne un peu cette idée de douceur de vivre angoumoisine, quoi.
Hein,
que l'on découvrira pendant cet été grâce à l'Office de Tourisme. Et on vous remercie de nous avoir appelé pour nous donner envie.
On vous en prie, on n'oublie pas, c'est le quart d'heure charentais, on prend le temps de vivre à Angoulême.
on va y penser chaque fois qu'on sera un petit peu stressé par le temps dans notre émission sur nos routes de l'été. On dira pense à Angoulême, Marine. Pense à Angoulême. On se le dira. Merci Enrico et bonne journée. Allez, on va immédiatement, puisqu'on est en Charente aujourd'hui, découvrir une perle, un trésor de ce terroir charentais, parce que tous les jours, il faut se donner faim.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, les routes de l'été. Un trésor du terroir.
Oh là oui, c'est un trésor du terroir. Quand on parle de Poitou-Charentes, il y a deux choses à mon avis. Charente, c'est le beurre, et on l'a dit tout à l'heure avec Picchu. Et puis aussi, sur le plan fromager, c'est le fromage de chèvre. C'est cette région de France, cette région qui est quand même les plus beaux chèvres entre Charente et Poitou. Alors, je suis au téléphone avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, Alain Joussaume. Bonjour Alain.
Bonjour Monsieur Vincent.
Comment ça va Alain Joussaume de la chèvrerie à Roulet-Saint-Estèphe en Charente. Alors Alain, on s'est connus dans des émissions de télé il y a bien longtemps.
Il y a belle lurette,
j'en parlais tout à l'heure.
On était jeunes et beaux à l'époque encore.
Oui. Enfin vous surtout, moi j'étais déjà moche. mais toujours est-il que vous n'avez pas changé de métier. Vous êtes toujours au milieu de vos chèvres sur ce beau terroir charentais et j'ai entendu dire, Alain, que vous aviez reçu un World Award, une récompense internationale cette année.
Oui, c'est pas moi, c'est mes fromages, topinette.
La topinette. Il faut dire qu'il y avait déjà la topinière. J'avais connu la grand mémé, et la topinette, c'est un peu le petit dernier qui est mis en lumière alors.
Oui, c'est la petite sœur de la topinière. La topinière, c'est un fromage de chèvre hémisphérique, donc qui ressemble étrangement au dôme que font les taupes dans le jardin.
Oui, d'accord.
Et puis, il y a quelques années, on a fait donc la petite sœur de la topinière, qu'on a agréablement surnommée la topinette.
La Taupinette. Moi, j'adore ce terme. Et alors, dans quelles circonstances vous avez reçu cet award, ce prix?
En fait, voilà, tous les ans, il y a un concours international qui, l'année dernière, enfin, fin 2018, s'est déroulé à Bergen. Mm-hmm. Et là, il y a un concours qui regroupe tous les fromages du monde,
oui.
Jugé par plus de 350 professionnels.
Ouh, ah oui.
Et on s'est retrouvé donc 8e meilleur fromage du monde.
Oh là là.
Et premier fromage au lait cru.
Premier fromage au lait cru. Ah ouais. Bah dites donc, oui, parce que...
Donc ça fait très plaisir, oui, c'est vrai.
Après, bah, je comprends que ça fasse plaisir.
C'est un véritable challenge, c'est-à-dire que quand on vous dit vous êtes le meilleur, il faut le rester. C'est un peu comme dans les compétitions sportives.
Mm-hmm. Combien de chèvres environ? 400, 500, toujours dans l'exploitation?
Oui, on est autour de 400 chèvres à peu près.
C'est quoi comme variété de l'alpine chamoisée? C'est quoi?
Exactement, de l'alpine chamoisée, oui. C'est ouais, la fameuse ouais, petite chèvre... marron, le trait noir,
ouais,
le masque noir et les pattes noires.
Et l'œil malin et la barbichette toujours bien dressées. Ouais. Oui, on les aime bien. Exactement. Ces chèvres. Et comment, simplement, parce que bon, on ne s'adresse pas aux spécialistes, d'abord, vous leur donnez du foin que vous faites pousser, vous?
Exactement.
Elles broutent quand elles peuvent, et puis...
On produit l'essentiel... Je dirais même 90% de ce que mange les chèvres.
Ah, génial.
C'est-à-dire que...
Ça fait la différence, voilà, apparemment.
voilà, il y a 5 minutes encore, j'étais dans mes champs en train de faire les foins.
Mm-hmm. Voilà, ça sera pour l'hiver, rentré, quoi. Ouais.
Voilà, mm-hmm. On a rentré de l'orge, et puis on fait du maïs, la paille, évidemment.
Eh oui, bien sûr, bien sûr.
Et c'est la meilleure façon pour d'abord maîtriser complètement ce que mangent nos biquettes,
mm-hmm.
et d'autre part, de faire un brûlé, quoi, parce que c'est l'essentiel.
Oui, je le disais tout à l'heure en préliminaire, grande région, Charente-Poitou pour les fromages de chèvre. L'autre, c'est la région centre, hein, évidemment, entre le Berry et le Val-de-Loire. Il y a aussi des très beaux chèvres d'appellation.
Comment les selles sur chèvre, tout ça.
Évidemment, on a la chance en France. Hein. Et puis, on descend au sud, dans le Lot, il y a le Rocamadour quand même, qui est un sacré chèvre. Et puis, il y a le Bannon en Provence. Enfin, on ne manque pas de chèvres, c'est sûr. Mais les vôtres ont pour particularité d'être très doux et de s'affiner en douceur. Hein. Je veux dire, avec une certaine amabilité, j'ai envie de dire.
Oui, parce que en fait, je faisais une petite allusion aux envahisseurs tout à l'heure, là, quand je vous ai dit bonjour, tout simplement parce qu'on a pendant pas mal d'années, on est passé quand même pour des extraterrestres. Parce que faire des chèvres en plein pays du Cognac, hein, on est quelques kilomètres au sud d'Angoulême.
Elles broutaient pas les vignes.
Fallait être un peu dingue. Et voilà, c'est mon père qui a eu cette idée un peu folle dans les années 50.
Il a bien fait.
Et je crois qu'il a bien fait. Ma grand-mère faisait le fromage de chèvre comme lui avait appris sa grand-mère.
Et voilà.
Et mon grand-père, lui, avec son petit Solex, faisait du porte-à-porte dans les rues des petits villages aux alentours. Il y a encore des anciens qui m'en parlent, qui se débrouillaient toujours pour arriver quelques temps avant le déjeuner, quand on a le petit creux de 11h, là. Et voilà, ça a démarré comme ça.
Et oui, Alain, parce que vous êtes un peu un sudiste, hein, parce que c'est vrai que la chèvre, c'est plutôt le Poitou hein, que la Charente. Mais bon, voilà. Vous êtes les sudistes de la chèvre, voilà, dans votre région.
Exactement, on est à 70 km au sud de l'appellation Chabichou-du-Poitou.
Chabichou, oui.
Donc, on n'est pas dans une zone d'AOC ou d'AOP.
Non, pas un chef d'appellation.
C'est la raison pour laquelle on a décidé de créer nous-mêmes notre
fromage.
Spécialité.
Ah oui, bien sûr.
Et voilà, et ce terroir du sud Charente, hein, argilo-calcaire, très, très bien pour la vigne, entre autres, mais tout à fait adapté également à l'élevage des chèvres.
Et c'est bien légitime.
Visiblement, ce terroir nous fait faire un fromage très doux. Alors, pour faire un fromage doux, c'est une question de douceur, de beaucoup d'amour.
Et d'avoir le lait, le beau lait, et voilà. le bon foin pour nourrir les chèvres et les fleurs des champs aussi, hein, que
et
l'on
voilà,
retrouve.
C'est avec ça qu'on fait des bons fromages fermiers au lait cru.
Merci Alain, merci beaucoup Alain Joussaume, à la chèvrerie, à Roulet-Saint-Estèphe. Non, je voulais mettre un coup de projecteur parce que j'ai été très impressionné par votre World Award, votre 8e place derrière tous les fromages du monde, hein, et premier au lait cru lors de ce grand concours des fromages internationaux. Un très bel été à vous, pourvu que les foins soient abondants. temps pour que les biquettes aient de quoi manger cet hiver.
Exactement, on attend un petit peu la pluie quand même.
Ah ouais, ça serait pas plus mal. Merci à vous. Allez, mes amis, on se retrouve dans quelques minutes pour parler de tous ces talents qui émaillent la Charente. Croyez-moi, ça ne manque pas, et notamment dans les métiers de bouche et tout ce qui tourne autour de l'artisanat des métiers d'art.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Et nous continuons notre magnifique balade charentaise. Ça pourrait être le titre d'une chanson, balade charentaise, entre Charente-Maritime et Charente. Alors la Charente, eh bien, on a découvert Angoulême et ses splendeurs il y a quelques minutes. Et maintenant, on va pousser un petit peu plus loin du côté de Cognac. Cognac, icône de la Charente, et Cognac connu dans le monde entier grâce à ce breuvage qu'il faut boire avec grande modération. Mais pour faire du bon cognac, eh bien parfois, il faut des ustensiles, et des ustensiles d'importance.
Sud Radio, les routes de l'été. C'est qui le chef ?
Alors, c'est qui le chef ? Eh ben aujourd'hui, c'est pas un chef, figurez-vous. C'est mieux qu'un chef, c'est un meilleur ouvrier de France. Et cet homme, Olivier François, il est tonnelier à côté de Cognac. Bonjour Olivier.
Bonjour Vincent.
Alors, Merpin, où se trouve la tonnellerie Taranceau pour laquelle vous travaillez, Merpin, c'est, on va dire, c'est la banlieue de Cognac, hein, c'est la banlieue sud.
Tout à fait, ça touche Cognac. Voilà,
ça touche Cognac, voilà, c'est les alentours. Oui. Alors, on peut imaginer que c'est important, hein, la tonnellerie pour le cognac, et pas seulement pour le vin français, et je sais que vous servez de très grandes maisons partout dans le vignoble. Mais le cognac, et on va parler de pièces, on va parler de barriques, hein, qu'on parle plus souvent de pièces et de barriques que de tonneaux, hein, en tonnellerie.
C'est vrai, tout à fait, de fûts, oui.
Hein, de fûts. Voilà. C'est important pour le cognac parce que, on le rappelle, le cognac, quand il sort de l'alambic, il est blanc, hein, comme toutes les eaux de vie. Et c'est le tonneau, c'est la barrique, c'est le fût qui va lui donner sa couleur.
Exactement. Lorsque vous mettez vos eaux de vie dans les fûts qui sont en chêne,
oui.
Eh bien en fait, le chêne va donner des tanins.
Oui.
Et en fait, c'est cette couleur jaune boisée qui vous fait la couleur du cognac. Et en fait, plus vos cognacs seront vieux et âgés, et ben en fait plus vos cognacs seront colorés en fait.
Et alors en communiquant ces tanins, ils communiquent également des arômes, hein, bien sûr.
Tout à fait. La palette est très riche en fait pour les fûts à cognac. Nous, à la tonnerie Taranceau, on fait essentiellement des chauffes très fortes.
Donc, on va en parler de la chauffe, hein, parce que c'est important.
Plus tard,
mais déjà, l'essence des bois. On parle souvent de chênes, et notamment nos grands chênes de la forêt de Troncay, des Mérins. C'est la Rolls du chêne, ça.
Tout à fait, c'est la Rolls du chêne. Alors après, pour l'appellation au cognac, en fait, ce sont les chênes du Limousin.
Donc d'accord,
là, les grains
du Limousin.
Sont un peu différents.
D'accord.
Tout à fait. Les grains sont différents et sont spécialement adaptés à l'élevage des cognacs, en fait, au vieillissement des cognacs.
Parce que le chêne, c'est une, on va dire, c'est une plante de terroir. Elle prend aussi le goût du sous-sol.
Eh bien, alors oui, on sait avec les années et avec les dégustations, on peut s'apercevoir que telle forêt, en fait, on sélectionne les arbres sur pied. Et il est vrai que les plus belles pièces et les plus beaux arbres sont dans la forêt de Troncay pour les grands vins, effectivement. Oui.
Mmh. Alors, comment est-ce qu'on devient MOF tonnelier, meilleur ouvrier de France tonnelier ? On le fait évidemment en passant le concours de MOF. C'est parce que ça valide un travail manuel. C'est encore fait à la main, les fûts, les pièces ?
Alors, les fûts pour le concours, on va dire, on nous conseille de travailler avec les technologies du moment.
Oui.
Donc on peut se servir des machines actuelles. Hein.
Oui, oui.
En fait, c'est un sujet imposé.
Oui.
Un sujet imposé avec une œuvre à rendre à un jury.
D'accord.
Et cette pièce est jugée par un jury.
Mais Olivier François, dans votre travail de tous les jours, est-ce que ces pièces-là, elles se font, ces barriques, elles se font à la main ?
Alors l'homme est très présent encore dans le monde de la tonnerie,
hein,
puisque l'assemblage, c'est encore un métier très manuel où il y a encore beaucoup.
Il faut d'abord tailler vos pièces de bois qu'on appelle des douelles, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Et il faut d'abord leur donner une forme.
Exactement. Donc les douelles, alors les mérins arrivent sur nos parcs de vieillissement.
Donc le mérin, c'est le nom de ces chênes, donc, oui.
Voilà, c'est le nom du, c'est les planches qu'on voit sur parc en fait, mm-hmm. qu'on appelle mérins, et ces mérins sont séchés dehors à l'air libre, oui. Entre 24 et 36 mois. Oui. Donc là, c'est un séchage naturel où D'accord. les mérins sont exposés à la pluie D'accord. et au vent, au soleil. Mm-hmm. Et ensuite, les mérins sont rentrés dans les ateliers, on les usine et là, on les forme en douelles. Et ensuite, les tonneliers récupèrent ces douelles et montent les fûts, les coques. Donc, on chauffe toujours avec au feu de bois. Ça, c'est important de signaler.
Ah oui. D'abord parce que ça donne du goût, mais surtout parce que chauffer, ça va permettre de mettre en forme, de tordre ces douelles, en quelque sorte.
Exactement. La chaleur et l'humidité va vous permettre de cintrer ce bois sans le casser et en fait derrière il faut qu'il garde cette forme cintrée, donc
c'est ça,
il
parce faut que
vraiment de la chaleur humidité.
On peut le rappeler, il n'y a pas de joint entre ces douelles, hein. C'est jointif naturellement, ce sont des morceaux de bois contre des morceaux de bois et ça doit être plus ou moins étanche, voilà.
Exactement. Alors, je dirais totalement étanche, mais
oui. Même s'il y a un peu d'évaporation, hein, la fameuse part des anges du cognac.
Et oui, c'est ça, c'est vrai. Mais en fait, l'étanchéité se fait après par la qualité aussi du cerclage qui vient maintenir ces douelles.
Voilà. Alors aujourd'hui, on s'aide évidemment de machines qui, avec des câbles, qui vont serrer, hein, qui vont cintrer les pièces, non ?
Exactement. Oui. Mm-hmm. Oui. Donc, alors heureusement, on va dire. Que
la technique a évolué quand même.
La technique a évolué, donc le travail est moins pénible, mais je dirais qu'on travaille aussi de plus en plus vite, donc l'un dans l'autre.
Oui, bien sûr.
Mais bon, ça reste un très beau métier où les passionnés du bois vraiment
peuvent s'exprimer. Ouais. Bah oui. Olivier,
ah, dans ce métier.
Oui. Un tout petit dernier mot, parce que les gens ne le savent pas, mais un propriétaire de grand vin, ou simplement d'un très beau vin, ou de cognac, peut choisir son degré de brûlage, hein, la chauffe. On va avoir des chênes, enfin l'intérieur des fûts peuvent être de plus ou moins brûlés pour donner du goût.
Tout à fait. Exactement, ouais. En fait, on va travailler l'intérieur de la barrique par le feu, donc c'est ce qu'on appelle le bousinage, où là on va chauffer plus ou moins intensément l'intérieur du fût.
Un peu le caraméliser en quelque sorte, hein, pour communiquer des arômes, encore une
exactement.
Fois.
Exactement. Et moins on chauffe, alors on va créer des arômes, et plus on va chauffer, on va en détruire, mais aussi en créer des nouveaux.
Eh oui.
Donc là, il y a vraiment un échange à faire avec
le propriétaire, avec le maître de chais. Oui. Merci beaucoup, Olivier François, meilleur ouvrier de France, tonnelier à la tonnellerie Taranceau, à côté de Cognac. Et on le disait, importance du fût, hein, pour l'eau de vie que l'on met à l'intérieur. C'est aussi un des aspects de la Charente. Allez, on se retrouve dans une minute pour parler belle cuisine charentaise.
Sud Radio. Les routes de l'été, les meilleurs plans du petit futé.
Si vous avez l'habitude de l'émission Les routes de l'été, vous savez que le mercredi, on part au-delà de nos frontières avec Stéphane. Bonjour Stéphane,
bonjour
notre
Vincent.
Petit futé. Alors oui, il adore ça Stéphane, il adore se balader. De toute façon, c'est sa vie, hein. C'est, on peut le dire hein, carrément. Hein.
Il faut se balader un tout petit peu.
Ah, vous devez avoir un certain nombre de destinations à votre actif, c'est certain, en tant que spécialiste du petit futé. Et alors aujourd'hui, où est-ce que vous nous faites voyager ?
Ah, une destination qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'Islande.
Oh mais j'adore !
C'est vraiment le truc bizarre. C'est le truc bizarre que vous adorez. C'est
Non, mais moi j'adore ce côté minéral, quoi.
Voilà, c'est une terre volcanique, hein. C'est un volcan. On a beaucoup entendu parler des fameux volcans islandais quand ils bloquaient tout l'espace aérien européen, voire mondial. Alors, pour situer un peu, on est au nord de l'Atlantique, hein. C'est le point le plus septentrional de l'Europe.
C'est-à-dire au nord
Voilà.
Non, parce que septentrional, tout le monde sait pas ce que ça veut dire.
Nous, c'est
le point le plus au nord.
Au nord-ouest. Au nord-ouest. Et donc, on se retrouve avec des spectacles, un côté très spectaculaire, en fait. Il faut dire que les sols sont de lave, la végétation, c'est très discutable, c'est plus de l'ordre de petits arbustes et de la mousse, qui a des petits côtés, des couleurs assez vives.
Des bruyères, quand même, un petit peu. Oui, enfin, ouais, à peine,
pas trop.
Des lichens.
Et en fait, ça oscille entre la mousse, parce qu'ils ont beaucoup de mal à pousser, et rien, la pierre, la lave brute. Ben, c'est pas évident de pousser là-dessus.
Non, et puis en plus, c'est chaud. Chaud par terre.
Le problème, c'est que c'est froid maintenant.
Ah non, c'est froid. Voilà, c'est refroidi. C'était chaud, mais c'est refroidi.
Encore, ce serait chaud, ça irait. Et non, en fait, il y a des zones où c'est chaud, puisqu'il y a des résurgences. Et d'ailleurs, on va faire du bain aussi. Hein.
Ah oui.
Il y a des bains en plein. Il y a des champs avec des trous. Et on va se baigner dans les champs, dans le petit trou, dans de l'eau chaude.
Dites-moi, Stéphane Zermeta, vous m'aviez parlé de Budapest.
Ça fait deux fois que je vous fais
oui,
les bains.
Oui, non, parce que vous êtes un mec qui passe son temps dans la baignoire, c'est ça
pas, quasiment.
Quasiment, vous aimez ça. Mais je peux comprendre. Hein, alors, je peux comprendre.
Vous m'avez avoué adorer les geysers.
Oui, ah oui.
Ah, ça c'est fascinant.
C'est extraordinaire. Alors il y en a à Yellowstone aux États-Unis, dans le parc de Yellowstone, et je pense que c'est aussi le cas
en Islande. C'est magnifique. Alors il y a le circuit classique. Quand on va aller en Islande, on arrive à Reykjavik, c'est la capitale. Ouais. C'est pas petit. On appelle ça la capitale le poche. C'est ouais, une capitale ouais. très festive.
Avec des baraques en bois,
pratiquement. Ouais, mais très joli, très coloré. C'est vraiment très sympa. Et on va faire ce qu'ils appellent le cercle d'or. Ce sont les geysers, parce que c'est un phénomène complètement exceptionnel. Ils ont un gros geyser, parce que l'autre il ne fonctionne plus beaucoup, ça dépend les périodes, mais c'est vraiment monumental. Vous
c'est
avez...
un peu comme le jet d'eau de Genève, quoi, hein, au milieu du Léman.
Si c'est, hein, c'est par moment.
Oui, c'est ça.
Et c'est quand même beaucoup plus naturel. Et donc on voit une boule assez qui doit faire un mètre de circonférence à peu près.
Ah ouais.
Un bleu d'une intensité absolument magique. Et subitement, l'explosion, ça monte et ça finit. Hein. C'est vraiment absolument un moment complètement magique.
De toute façon, ça n'est que volcanique, hein, c'est... comme terre. Hein.
Ah ben ça,
on
c'est...
est d'accord. C'est une résurgence volcanique.
Ah, on ne le règle pas, il ne l'arrête pas après les visites. Pas très loin de là, on a la cascade Gullfoss, qui est, je crois que c'est la plus grande cascade d'Europe. Et vers le sud, ça fait partie du parcours, il y a plein de cascades. Et moi, ce que je trouve intéressant avec les cascades en Islande, c'est que ce sont des bouts de terre qui se sont effondrés. Et donc, on voit la cascade de très très loin. Souvent, nous, on voit les cascades dans un coin encaissé entre des rochers. Ben non, là, vous êtes à 10 km, vous voyez au fond une cascade monumentale avec un décroché de terre, c'est vraiment majestueux.
Stéphane, qu'on soit dans les films, qu'on soit dans la pub, quand on veut rester en Europe, qu'on veut du monumental, du dramatique, etc., on va souvent en Islande.
Oui.
Moi, il y a une image qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'est le film Voyage au centre de la Terre. De
Je
Jules
vais
Verne.
Vous y amener parce que c'est dans le nord-ouest de l'Islande. En fait, c'est la partie, voilà, parce que c'est fait avec des sortes de petits bras l'Islande, donc on est vraiment sur le nord-ouest. Alors, ce fameux volcan dont vous parlez, Voyage au centre de la Terre, c'est le Snæfellsjökull.
Ah bah, pas mal, vous en sortez pas trop mal, parce que c'est celui dont vous parliez tout à l'heure, c'est le Eyjafjallajökull. Jökull qui doit vouloir dire volcan, parce que...
Ouais, Jökull, c'est volcan. Bon, c'est Jökull qui est pas loin. Lui, il culmine à 1448 mètres, donc c'est assez étonnant, on le voit de loin. Et ce qui est étonnant, c'est on va dérouler des longues vallées, parce que c'est très plat, finalement. Il y a aussi des champs de lave. Donc il y a des zones où la lave a dû se refroidir très très vite, et donc on se retrouve avec comme si elle était en fait et peut-être il y avait de l'eau à l'époque, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé au niveau de la formation, mais en tout cas ça nous fait des formes absolument étranges. Des sculptures dans
de
tous
lave,
les sens,
ouais, oui,
de lave qui ne sont pas beaucoup érodées parce que la lave c'est très dur, et on a de la mousse qui s'est développée. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des plages de lave noire avec des pics rocheux noirs également.
Ah ouais.
Ils ont tourné d'ailleurs
avec le blanc de la neige, avec le bleu de l'eau, c'est incroyable.
C'est absolument complètement dingue. Et d'ailleurs, ils ont tourné des épisodes de Game of Thrones cette région-là.
Je m'en doute.
Mais quand vous y êtes, vous comprenez déjà que Game of Thrones, ça avait pu se tourner là sans faire d'effets spéciaux. Mais aussi, vous vous dites que Björk, elle n'est pas bizarre, elle est vraiment dans l'esprit.
Son terroir.
Parce que c'est mystérieux, il y a de la brume, c'est compliqué, ces pics rocheux, ils sont bizarres, ils ont des formes étranges.
Et plein de légendes, évidemment, qui s'attachent
à
ça.
Et donc, ces pics rocheux, ce sont des personnages étranges. Il y a vraiment des légendes de dingue. D'ailleurs, les Islandais croient majoritairement que les elfes existent.
Les trolls aussi, j'imagine.
Voilà, les fameux trolls. Pour information, par exemple, ils ont arrêté la construction d'une autoroute parce que des personnes, une association avait dit, mais non, il y a des elfes, c'est le passage des elfes.
Non, vous plaisantez.
Je vous assure.
Vous savez qu'on l'avait fait pour des grenouilles et des scarabées chez nous, mais pour les elfes, là, c'est fort.
Non, ils le font vraiment parce qu'il y a une véritable croyance.
Mais ils y croient. Donc il faut
mais
les
en fait,
respecter.
Alors ce qui est intéressant, c'est pour donner un peu de sérieux, c'est que cette histoire d'elfes, de trolls, etc., c'est aussi c'est toute l'historique par rapport à la mère nature. Et c'est une notion de respecter la mère nature. Donc derrière tout ça, il y a quand même un arrière-fond assez logique. Donc est-ce qu'ils existent ou pas je sais pas.
Alors en revanche, il y a un petit personnage qui existe en Islande, parce que je crois que c'est même un des symboles du pays, pour les ornithologues avertis, dont je ne fais pas partie. Petit oiseau, gros bec coloré.
Magnifique, le macareux.
Ah, une bonne petite tête. On le voit toujours avec ses petits sardines ou anchois, enfin, je sais pas, des petits poissons dans le bec.
C'est vrai qu'il est très mignon. Et il y a une façon de le voir, en fait. On a la falaise de l'Atrashbark. Donc là, par rapport au volcan où on était tout à l'heure, on va prendre le bateau, on va partir au nord.
Sur une île
c'est assez bizarre la façon dont est fait l'Islande. Et on va aller sur la falaise de l'Atrashbark. Là, c'est la plus grande colonie de macareux moines au monde. Alors, ils y vont que l'été. Donc, si vous allez au printemps, mais c'est un peu trop tôt, juin, ça commence à arriver. Mais lorsqu'ils seront à pleine saison, 2 millions au moins, ils sont, et ils se reproduisent. Ils sont là. Donc, vous marchez sur la falaise, c'est jonchés de macareux. Les petits mignons, ils sont là.
Jonchés de macareux et de déjections de macareux, j'imagine. Hein. Faire attention de ne pas glisser, donc.
Oui, j'avais pas vu ça comme ça.
Ouais, non. Et puis ça doit piailler fort, hein, le macareux.
Ah, mais c'est un vacarme effroyable. Ah,
parce que je connaissais les pintades, les élevages de pintades qui sont à peu près intenables, mais là j'imagine qu'on bat les records.
Mais je suis pas sûr que les macareux soient les pires, parce qu'il y a pas que eux, les macareux. D'accord, il y a aussi d'autres qui sont d'autres couleurs. Il y en a plein. Et je suis pas sûr que les macareux soient les plus brillants. Mais en tout cas, ils sont mignons tout plein. On va pouvoir les voir. Et les falaises elles-mêmes sont impressionnantes puisque vous êtes sur le bord. C'est pas très sécurisé, vous marchez comme ça, et à 400 mètres de hauteur, vous surplombez, c'est des paysages complètement dingues.
Merci Stéphane.
On n'a pas parlé juste le dernier point. Vous passerez par le Blue Lagoon parce que la géothermie est importante. Il y a toute la culture des bains, on a vaguement évoqué. Et le Blue Lagoon, c'est le paysage avec les nuages, un paysage semi-industriel et de l'eau bleue laiteuse. C'est absolument merveilleux.
Ce qui nous change un peu de la Charente qu'on va découvrir dans cette fin d'émission.
Ambiance différente.
Ambiance tout à fait différente, mais ça donne envie d'aller voir l'eau, la glace et le feu. Ce pays absolument incroyable. Et c'est en Europe, hein. Ça tombe bien.
Pas très loin.
Allez, demain, on sera dans la Drôme et je crois que vous marcherez sur les traces de la comtesse de Ségur, Stéphane.
Absolument, à Grignan.
Alors, à demain.
Sud Radio, les routes de l'été, ça, c'est du sport.
Ce sont des routes bien maritimes. Aujourd'hui, on revient sur un autre littoral que le littoral islandais, puisqu'on est en Charente-Maritime. On va s'occuper de sport, comme on le fait tous les matins, parce que nous, on a des vacances qui bougent. Eh oui, alors ces vacances qui bougent, eh bien c'est du côté de l'île d'Oléron avec un moniteur. Moi j'aime bien avoir un moniteur le matin, ça me donne envie de faire du sport. C'est Antoine Masson qui est avec nous en ligne. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Antoine Masson, moniteur au Wind Oléron Club. On sait que là il s'agit de voile, de sport de voile.
C'est ça, tout à fait.
Alors,
voile, char à voile, planche à voile, tout ça.
Eh oui, sur terre et sur l'eau donc. Et c'est ce matin, ça. Je voulais qu'on parle un petit peu de kata. Pas catastrophe, hein. Quand on dit kata, c'est catamaran, bien sûr. Hein.
C'est ça.
Alors, moi, quand j'étais jeune, je faisais du bateau, du dériveur. Ouais. Au fond, quand on démarre la voile, on a le choix entre les deux, entre le dériveur, c'est-à-dire un monocoque ou un catamaran.
Maintenant, nous, on est plutôt sur le kata, quoi.
Oui, pourquoi? C'est quoi la différence?
Parce que c'est plus ludique, plus facile à apprendre, quoi. Donc, on est plus rapidement sur du catamaran.
Ah, d'abord parce que c'est stable en quelque sorte le kata.
C'est ça, tout à fait. On n'a pas de problème d'équilibre, donc c'est plus facile à mettre en place, plus rapide aussi. Donc c'est plus ludique quoi.
Plus ludique pour en tout cas pour ceux qui commencent. Et puis après, on le sait, sont aussi des bateaux qui dès qu'ils prennent de la taille sont plus rapides que les monocoques.
C'est ça. Maintenant avec les nouveautés, ça commence à être kiff-kiff, mais c'est vrai qu'en principe c'est quand même un peu plus rapide.
Alors, au Wind Oléron Club, qu'est-ce que c'est les bateaux? Ces catamarans, c'est quoi comme modèle pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu?
On va avoir un peu de tout. On a des enfants de 6 ans jusqu'à 77 ans, donc on a un peu tous les modèles.
Oui. ça mesure combien un catamaran pour s'initier, pour commencer, pour faire des stages pendant les vacances?
Nous, on va avoir ce qu'on appelle des 10 pieds qui vont faire 4 mètres, et après on va avoir du 15 pieds qui va être sur une coque qui fait dans les 4 mètres 50.
Et on passe des brevets chez vous? On peut valider des acquis par des examens, par des brevets?
Et on a un petit niveau à chaque fin de stage, on a des petits niveaux à passer, voilà. Et après, tout dépend des conditions, de comment ça s'est passé. Mais oui, on a un petit niveau à la fin, un petit brevet, ouais.
Oui, alors, ce brevet, c'est un brevet qui est national, qui est reconnu. Je veux dire, comme on passerait des étoiles au ski, on peut passer des brevets avec des stades, des niveaux?
Oui, en fait, c'est tout à fait ça. On a un petit livret de jeunesse avec différents niveaux. Mmh. Et donc ça, c'est la Fédération française qui nous donne ces petits livrets. D'accord. Et après, nous, on développe les petits niveaux, quoi.
Antoine Masson, lorsqu'on arrive dans le coin d'Oléron, il n'y a pas que des parcs à huîtres, hein, y a quand même du beau littoral avec des pinèdes magnifiques du côté d'Oléron. Est-ce que vous organisez des excursions, des sorties en mer avec plusieurs bateaux? Comment ça se passe chez vous?
Ça, on le fait pas mal avec la voile scolaire, nous, les petits qu'on a à l'année. Ouais. Et donc, on essaye, effectivement, sur une saison, de leur faire une sortie à la journée, histoire d'aller voir autre chose que juste notre anse. On se balade un peu sur le long de la côte. Mmh. Et après, on a des petites compétitions, un raid cata-Oléron, qui permet de faire le tour de l'île d'Oléron avec tous les catamarans, tous ensemble, quoi.
Combien ça met de temps de faire le tour de l'île d'Oléron? Parce que c'est une grande île, quand même.
Ouais, j'ai envie de vous dire, tout dépend du vent et du catamaran que vous avez. Ouais, quoi.
Évidemment, évidemment, c'est ça.
Et votre niveau aussi.
Ah, si on a une classe ultime et que c'est François Gabart qui est dessus, par exemple, ça peut aller vite. Hein. Mais si on a un petit catamaran du club, en moyenne, on y passe combien de temps?
En moyenne, là, en fait, le raid, nous, quand on l'a fait l'année dernière, on le fait sur 2 jours. On fait une partie d'un côté et on fait l'autre partie de l'autre côté.
Avec escale le soir à la pointe. Dur.
Voilà, effectivement.
C'est super. Alors donc, à vélo sur l'île, hein, le plus souvent, et autour de l'île, donc en catamaran, pas besoin de niveau, hein, on peut commencer vraiment en étant débutant. Hein.
Voilà, oui, de toute façon on est là pour ça, nous on est là pour vous conseiller, donc effectivement on peut débuter, il n'y a pas de souci, quoi. Et après, pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, ils peuvent partir tout seuls. En location, gentiment. Quoi.
On les lâche, quoi. On les lâche comme dans des brevets d'aviation. Il y a un moment où on est lâché, quoi. C'est-à-dire on se débrouille seul avec son bateau.
Ouais, c'est ça. Après, c'est nous qui jugeons les conditions pour savoir en fonction de votre niveau si ça le fait ou pas. Mais voilà, en principe, si vous avez le niveau et que les conditions sont gentilles, il n'y a pas de souci. On vous envoie sur l'eau, en location, sans problème.
Puis l'avantage, c'est que c'est un littoral sableux, pas trop de rochers, pas trop de risques de racler la coque. Hein,
ça dépend d'où vous partez.
Ah oui, il y a quand même des coins ça un dépend. Petit peu piégeux.
Piégeux à marée basse, on voit bien les cailloux.
Ah bah
quoi,
oui,
donc.
Ah bah oui, c'est sûr.
Mais il y a des petits endroits où il y a quand même quelques petits rochers à regarder, mais c'est pas dangereux, il n'y a pas de souci.
Et passer entre les huîtres, hein, parce que je rappelle que des parcs à huîtres, c'est pas ce qui manque autour de l'île d'Oléron. Hein.
Ouais, alors ça c'est côté est, côté ouest, il n'y a pas de parc à huîtres, donc
c'est
tranquille.
C'est vrai, côté large, c'est mieux quand même. Hein.
C'est ça.
Mais vers l'intérieur des terres, enfin en tout cas, là dans les bras de mer qui rentrent dans ces sols un petit peu meubles, un petit peu vaseux, un petit peu alluvionnaire, voilà, c'est sûr qu'il y a du parc à huîtres, il y en a partout. Bon, merci beaucoup Antoine Masson, ça nous donne envie d'aller faire un petit tour de bateau à voile du côté de l'île d'Oléron. On vous souhaite un bel été avec les débutants et puis les confirmés aussi, hein, parce qu'il y en a, je suppose. Hein.
Oui, effectivement. Merci bien en tout cas, merci à vous. Au plaisir de vous voir sur l'eau.
Oh, oui, alors vous ne serez pas déçus, là, le jour où vous me verrez sur l'eau.
Hein, il n'y a pas de souci.
Merci, Antoine. Bonne journée, bel
merci
été
bien.
Et belles vacances à tous ceux qui vont du côté de la Charente-Maritime, du côté de Royan, du côté de l'île d'Oléron et même en remontant du côté de La Rochelle, puisque ce matin, nous visitons les Charentes. On va quand même, à un moment donné, s'intéresser à ce qu'on mange.
Bah oui.
Hein, à ce qu'on va déguster au déjeuner. Pour ça, on va aller passer un coup de fil à un très grand chef de la région Charente, mais gardez un petit peu votre appétit de côté, ne vous bourrez pas d'amuse-gueule parce qu'on déguste tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Les routes de l'été nous emmènent aujourd'hui en Charente avec un S, Charente, Charente-Maritime, et là on va revenir en Charente et même dans le nord de la Charente. Alors c'est un beau coin de France, hein, mais comme c'est vraiment loin du littoral, la Charente, hein, la Charente-Maritime pas, évidemment, comme vous vous en doutez, mais comme la Charente, voilà, c'est un peu à l'intérieur des terres, parfois c'est un peu méconnu. Si on n'est pas passé par Angoulême pour ses nombreux festivals et événements, si on n'est pas passé par Cognac, Marine, alors il y a des raisons d'aller à Cognac. Cognac, hein, pas que le fait que ce soit la ville natale de François Ier, comme vous le saviez.
Justement, oui.
Hein, vous vous intéressez à l'histoire de France, les rois de France quand même, les Valois, hein?
Oui, mais je ne connais pas mes dates, malheureusement.
Voilà, alors, Cognac, il y a deux grands personnages. Il y a eu François Ier et après François Mitterrand, deux François. Hein, ah. Eh ben, oui, bah, si, il faut le savoir, hein, Cognac et Jarniac.
Et c'est quoi vos endroits préférés en Charente?
Moi, mes endroits préférés, bah, j'adore Cognac.
Le mec qui veut rester absolument sur le Cognac.
Non, Sainte, c'est très beau aussi. Hein, c'est plus au sud, c'est la Saint-Onge, Charente-Maritime. Voilà, on touche à ces deux. Et puis, lorsqu'on va très au sud, Royan, c'est quand même pas mal. Vous savez que souvent, c'est un petit peu déconsidéré par rapport à l'autre côté de la Gironde, qui est le Médoc, mm-hmm. hein, parce que c'est juste à bord. Hein, la Charente, c'est la partie nord du département de la Gironde, de l'autre côté de ce bras de mer et de ce bout de la Garonne qui est la Gironde. Eh bien, on trouve la Charente. Ça touche donc les deux régions. Et parfois, les Bordelais sont un peu durs avec les Charentais. Et moi, je trouve que la Charente, c'est un département absolument merveilleux. Pas seulement pour ses produits, pour ses gens aussi.
En tout cas, vous avez l'air intarissable sur le sujet.
Je l'ai découverte sur le tard, cette Charente, et la Charente-Maritime également. Et donc, autant vous dire que c'était... Voilà, une belle découverte, grâce aussi à Midi en France. Hein. J'ai pas mal voyagé et sillonné, vous le savez, mais la France grâce à Midi en France sur France 3. Vous vous intéressez un petit peu au menu du jour ou pas du tout ?
Ah ben moi, j'attends ça avec impatience chaque jour avec vous.
Eh bien, on va le découvrir dans un instant avec le chef Loïc Lecoin, ça vous va ?
Ben
vous,
parfait.
Vous connaissez, c'est du côté de Massignac, le domaine des étangs.
Sud Radio, les routes de l'été, le menu du jour.
Bonjour chef, bonjour Loïc.
Bonjour Vincent.
Comment ça va du côté de Massignac? Alors, c'est un peu une partie méconnue de la Charente, Massignac, hein, parce que c'est au nord, c'est assez au nord quand même.
C'est au nord, oui, au nord, nord-est.
Oui, c'est ça, nord-est, donc vraiment l'intérieur des terres pour le coup. Hein. Là, c'est on ça, est vraiment à l'opposé de l'océan, mais c'est une très belle région. Alors, les Diades, qui est votre restaurant, qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre des Diades? Vous êtes installé dans quel genre de nature, vous?
Non, on est, c'est un petit peu vallonneux, on est au milieu des étangs, des étangs de Haute-Charente.
Eh oui, bah oui, d'où le nom du restaurant.
Exactement, et donc nous sommes vraiment dans un parc arboré de 1000 hectares.
Ouais, c'est
avec,
ça.
Avec des bovins, on a 1000 bovins autour de notre maison.
Eh, génial.
Voilà. Donc,
ça chante le matin, c'est pas comme les coqs, ça meugle un peu dans les champs.
Ça meugle davantage, ça fait un peu plus de bruit. Mais...
Ok, Loïc, chef étoilé du domaine des étangs. Alors, comme d'habitude, chaque jour, on a envie de se donner faim, là, juste avant le déjeuner. C'est quoi le menu du jour du chef Lecoin aujourd'hui?
Alors nous, on l'a un petit peu rebaptisé un petit peu en menu de l'instant, on appelle ça.
Menu de l'instant, ben ça me va très bien, parce que c'est justement l'instant où j'ai faim.
Voilà, voilà, c'est ça. Ben, c'est par rapport à un moment instant, un instant de partage aussi. Et un moment de produits de saison, surtout.
Ah bah oui, oui.
Et voilà, on va toujours là-dessus, sur l'essentiel.
Et comme donc, entrée, on a quoi, par exemple?
Alors aujourd'hui, on a une petite fraîcheur. On est sur une fraîcheur de melon, charentais.
Ah bah oui. Non, on n'avait pas parlé du melon charentais, c'est quand même une des gloires des terroirs charentais, hein, originaire de Charente.
On est obligé, d'accueillir ce produit-là tout le temps à notre carte, ou régulièrement,
oui.
Donc, surtout dans la saison.
Et vous le servez
là,
comment?
On rajoute avec des petites pêches, des haricots verts, des amandes qui sont fraîches en ce moment.
Une salade aigre-douce, un peu.
Un petit peu façon salade aigre-douce, mais on l'assaisonne juste avec un petit vinaigre de pêche qu'on fait nous-mêmes.
Oh, super.
Et derrière, on fait une petite neige de verveine citron du jardin.
Ouais.
Donc on fait pocher nos pêches, tout simplement, et derrière, on vient mouiller tous ces petits produits comme ça, et on rajoute même quelques... Si on peut avoir, on a eu le mois dernier quelques petites girolles qu'on a fait condimenter au vinaigre.
Ouais, pas mal.
Vous savez, les tout petits pieds au vinaigre.
Mais oui, oui.
Voilà, et dedans, on vient incorporer ces petites girolles dans cette petite nage un petit peu.
Oui, c'est une petite soupe de melon et pêche, quoi.
Oui, voilà, bien présenté dans l'assiette, voilà, un petit bouillon.
Super.
Et voilà, c'est quelque chose de très frais.
Ah oui, et puis ça coupe pas l'appétit, ça. Ça ne fait couvrir sur le plat. Et c'est quoi aujourd'hui le plat?
Alors, le plat, on était sur un plat où je fais particulièrement aussi attention, c'est à la cagouille charentaise aussi.
Ah oui, l'escargot, on en a parlé avec Picchu tout à l'heure.
Voilà. Ouais. Mm-hmm. L'escargot de Charente est important. Et la truite, donc on a fait comme un petit peu un terre-rivière.
Ouais.
Bon, il y en a qui l'appellent terre-mer, mais ouais, on est resté dans les terres, donc terre-rivière. Et on a fait une petite raviole donc, avec ces petites cagouilles,
oui.
Et, comme sous forme un petit peu de berlingot. Une fois terminé, on mouille ça avec une petite purée de brocoli très légère, très light, très fluide.
Excusez-moi Loïc, j'ai juste une question. Cette cagouille, cet escargot, c'est du petit gris ?
C'est du petit gris, c'est un
d'accord,
peu le petit
d'accord.
gris. C'est oui, pas oui. tout à fait le petit pas gris du Périgord.
Bah non.
On est proche, mais ça y ressemble beaucoup.
Donc la chair du ravioli, la chair de votre raviole, c'est l'escargot, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est ça,
exactement.
Okay.
L'intérieur, l'escargot
mélangé avec des petites
blettes.
D'accord.
Voilà, et puis derrière, je fais mon berlingot, je monte ça comme un berlingot.
Mmh.
Et derrière, je mouille avec une petite purée de brocoli, mais très légère, très, très, très fluide.
Oui.
Et je viens rajouter quelques morceaux de petites truites de Grand Pontouvre,
oui.
à côté d'Angoulême, au-dessus d'Angoulême.
Qui est cuite comment, à la vapeur
Alors, ouais, je la cuis vapeur. Je la cuis vapeur. Je lève mes filets, je les assaisonne. Une fois désarrêtés, je rajoute un petit peu de cerfeuil entre les deux filets, je fais mon petit rouleau. Je mets ça en vapeur, une petite vapeur douce à 40-42 degrés,
c'est
ça suffit pour la truite.
Pour que ça reste très moelleux.
Voilà, pour que ça reste bien moelleux. Je coupe des petits ballotins de 2-3 cm de hauteur que je présente en hauteur dans cette purée de brocoli liquide.
Mmh, des petits canons voilà. de truite.
Voilà, des petits canons de truite. Et je viens mettre mes petits berlingots. Je fais même une petite, à la base, un petit coulis un petit peu d'ail rose en ce moment. Un petit coulis d'ail rose. Que je viens un petit peu dispatcher autour de ma purée pour répéter un petit peu l'ail persil,
oh
un petit
là
peu
là
de la cagouille. Mmh. Et voilà, et je mouille avec une petite huile de colza.
Voilà. Grillé ou pas, l'huile de colza?
Ah oui, grillé.
Ah oui, du colza grillé pour donner ce petit goût de noisette, hein, ce petit
voilà,
goût merveilleux.
Petit goût de noisette qui ira bien avec le brocoli.
Et même la truite, qui est un poisson très délicat hein, quand c'est bien fait. Juste un mot, j'ai vu, je ne devrais pas vous le dire parce qu'on n'a plus le temps, mais j'ai vu qu'il y avait aussi une côte de cochon fermier de Bernard Larapidi. C'est où ça?
Larapidi, c'est à Montbron. On est à 10 minutes de
Montbron. Oh là là. Moi, je vais pour la côte de cochon. Hein.
Ouais, il a du cochon qui est merveilleux. Mais on a Larapidi qui fait du très bon cochon. On a Monsieur Geoffroy qui est pareil, qui est à côté, qui est spécialiste de cochon, porcelet et tout ça.
Ça y est.
Vous l'avez perdu.
Ça y est, non, mais je suis déjà sur la bécane, moi. Ça y est, je suis déjà sur la route de l'été pour rejoindre Massignac. Et allez, en 30 secondes, le dessert que vous nous faites au menu.
Voilà, donc le petit dessert, on a prévu de faire un petit millefeuille, on l'appelle le feuille à feuille, de framboises du domaine, parce que sur le domaine, on a beaucoup...
Des petits fruits, des baies, des potagers, tout ça.
Donc là, on a mis des petites framboises de couleur, des jaunes, des roses, comme on a l'habitude de voir, et avec une petite crème très légère vanillée, comme on se fait un millefeuille, et avec ça, on accompagne d'un petit granité de tilleul et
petit
fond vert, parce que le tilleul se fait que sur se récolte que sur 3-4 jours pour qu'il soit bien beau.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc c'est en ce moment,
génial.
Donc c'est pour ça.
Ah
c'est,
bah,
le menu
c'est ça,
de l'instant.
La saison, voilà. On colle à l'instant. Voilà. Merci Loïc Lecoing, domaine des étangs à Massignac en Charente. On vous souhaite un super été. C'est moche ce que vous avez fait, vous nous avez donné très faim. Mais ce qui tombe bien, c'est que c'est la fin de l'émission et qu'on va pouvoir se ruer sur un restaurant avec Marine dès qu'on aura terminé. Non mais c'est terrible.
Même
hein.
si les framboises...
On joue avec nos nerfs et nos papilles hein, tous les jours et les vôtres aussi, mes chers auditeurs. Voilà, on était en Charente et en Charente-Maritime avec les routes de l'été ce matin. Demain, on ira se balader où, Marine? On ira du côté
et de la Drôme.
La Drôme, vous savez qu'elle est double. Elle est entre Dauphiné et Drôme provençale. Deux régions dans un département et on va là aussi découvrir des merveilles. Allez, rejoignez-nous demain sur les routes de l'été si vous n'avez pas eu le temps aujourd'hui. Le vélo est prêt, j'imagine, et on se balade ensemble. Hein, encore pendant 2 heures, de 10h à midi demain. Et pour l'instant, vous allez retrouver nos amis Junio et Meillant, histoire de se se chatouiller la rate
ou se
fendre la poire, c'est bien, on l'a fait pour le menu, on va se fendre la poire maintenant sur Sud Radio. Bonne journée et à demain.